Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, hein, comme chaque lundi soir, donc 19h, 20h30, votre émission sport, votre émission omnisport, hein, Mon Paris Sport. Alors on va avoir aujourd'hui eh bien, un invité exceptionnel dans nos studios. Il s'apprête à disputer dans quelques jours son premier championnat du monde de boxe. Eh bien, on le remercie parce qu'en plus, il vient de gagner. C'est Bakary Samaké. Bakary, bonsoir, merci.
Bonsoir à vous.
Merci pour l'invitation.
Merci à vous. Hein, merci à vous.
Alors, juste dans quel état d'esprit on est comme ça, j'allais dire, cinq jours avant un combat.
Franchement, on est confiant. On a fait une bonne préparation, très très bonne préparation. Et voilà, on part sur des bonnes ondes.
Très bien. Alors, on en a parlé, hein, en cas de titre, vous revenez la semaine prochaine avec la ceinture. Hein.
Bah, c'est ça.
Studio, hein. Ah, d'accord, ok. Exact. Il est accompagné de votre papa, Issa Samaké. Bonsoir Issa. Papa et puis l'entraîneur.
Voilà, les deux casquettes.
Voilà,
deux
casquettes. Donc on va parler un peu, parce qu'en plus, il y a une philosophie, il y a une itinéraire de vie quand même un petit peu particulier, atypique. Hein, donc,
bien sûr.
On reviendra là-dessus dans la deuxième partie de cette émission. On va, comme la tradition le veut, commencer par le foot. Je vais saluer mon ami El Hadji. Ça va, El Hadji ?
Ça va et toi, Philippe ? Enfin, ça peut aller mieux.
Ça va mieux, on est un petit peu remis. On a beaucoup de choses à dire. Hein,
beaucoup, donc, ouais.
Voilà. Et puis, on aura aussi en fin d'émission un petit point sur le basket, sur le volley, puis sur la victoire du 15 de France avec notre ami Valentin. Alors, est-ce que vous aimez le ballon rond ? Est-ce que vous aimez le
Bien
foot ?
Sûr.
Je crois que vous êtes d'origine malienne. Hein,
exactement.
C'est ça ? Donc, au Mali, on aime le foot.
On aime le foot, mais qui n'aime pas le foot? Tout le monde aime le foot. Là.
Bah oui.
Le foot, c'est dans notre culture.
Bah oui.
C'est dans le sang. Voilà.
On souffre un peu. Mais...
Que les Maliens ou les...
Les Maliens.
Je crois que tu parlais du PSG.
Les deux. Ah bah justement.
Parce qu'on est les deux. Voilà.
Ah bah c'est bien. Supporter du Paris Saint-Germain.
Ah bah oui.
En tant qu'habitant de Gagny.
Quelle déception.
Voilà. Justement, on va en parler parce que c'est vrai, El Hadji. Allez, les années se ressemblent. On a toujours les mêmes commentaires, les mêmes analyses. Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions, on n'y arrive pas. Battu au match aller 1-0. Bah là, ils ont été battus tout à fait logiquement par le Bayern de Munich 2-0. Et une nouvelle fois, ça va être encore les mêmes commentaires. Pourquoi le Paris Saint-Germain n'y arrive pas?
Pourquoi le Paris Saint-Germain n'y arrive pas? On le sait, enfin depuis un moment on le savait. Voilà, on s'attendait à un miracle au match retour parce que match aller, Kylian Mbappé n'était pas là.
Ouais.
Mais match retour, je le disais déjà dès la semaine dernière, on disait Neymar n'est pas là, ça va être mieux, ça va mieux jouer, etc. C'est faux, on a vu que c'est faux. Bon, la première mi-temps, ok, ça va, on est dedans, mais.
Équilibré, hein.
Un peu équilibré, ok, équilibré parce que le Bayern ne passe pas la deuxième aussi, il faut le dire. Voilà, parce que le Bayern ne passe pas la deuxième. Du coup, voilà, c'était équilibré vers les débuts. Juste après, on est rentré en deuxième mi-temps. Vitinha déjà qui manque l'immanquable en première mi-temps. Et c'est ce qui fait que souvent, on est éliminé parce qu'on n'arrive pas à être un tueur devant les cages. Voilà, on n'arrive pas à être un tueur, on n'arrive pas à faire ce qu'eux, ils font. En deuxième mi-temps, on est rentré. Ils ont passé la deuxième. Nous, on ne peut pas passer de deuxième parce que, comme Kylian Mbappé l'a dit, avec des joueurs, avec un recrutement de division de D2 portugaise... je vois pas où est-ce que vous voulez qu'on aille avec Verratti, ça fait un moment il est là entre les blessures et ses clopes et ses sorties nocturnes. Comment vous voulez qu'il joue contre des Kimmich, Goretzka au milieu de terrain? C'est pas possible, milieu de terrain, on s'est fait manger littéralement.
J'allais dire comme pratiquement souvent cette saison en Coupe d'Europe, hein, milieu de terrain, c'est le point faible du PSG. Hein.
C'est ça, on fait venir des personnes comme Vitinha, mais bon, Vitinha c'est trop jeune, du coup c'est pas pour maintenant. On fait venir un mec comme Fabien Ruiz, pourquoi faire partir Herrera pour ramener Fabien Ruiz? En fait, c'est la même chose. C'est, excusez-moi du terme, mais c'est la même merde, clairement. Et Idrissa Gueye est au-dessus de tous ces milieux qu'on a aujourd'hui au PSG. Il est au-dessus. Idrissa Gueye, ils l'ont laissé partir. On sait bien que ça n'est pas pour des raisons sportives, mais autres qu'ils l'ont laissé partir et qu'ils l'ont poussé en dehors du club. Et aujourd'hui, on voit bien le résultat. On veut bien le résultat. On n'arrive à rien faire. On joue contre le PSG. C'est toujours... On est la honte, en fait. Ouais. Clairement, là, aujourd'hui, on est la honte de la France. Voilà. Après Marseille, mais on est quand même la honte de la France. Et c'est ridicule, maintenant, de supporter une équipe comme ça.
Rappeler,
franchement,
hein,
c'est ridicule.
Depuis l'arrivée de QSI, il y a eu 4 éliminations en quart de finale. 5 en huitième de finale. Bon, il y a eu la finale et puis la demi-finale. Voilà. Bon, enfin, bon, le bilan est bien maigre. Et en plus, les joueurs qui arrivent, quand on les achète, enfin quand Paris Saint-Germain les achète, ils sont bons, ils arrivent au PSG et ils sont très bons quand en plus ils s'en vont. Comme dit Maria par exemple.
Oui, mais faut savoir pourquoi. Ouais. Faut savoir pourquoi les joueurs ils sont bons ouais. Quand
c'est
ils sont.
C'est l'environnement, c'est le club.
C'est l'environnement, c'est le club. C'est le tout. C'est ouais. Le tout. On a des coachs aussi merdiques. Christophe Galtier, c'est un coach merdique. Aujourd'hui, je le dis, c'est un coach merdique. Et je le dis pourquoi en plus parce que. Il a osé mettre la faute sur Batshuayi. Il a 17 ans. Le mec, il rentre à la mi-temps parce qu'il y a 2 blessés, 2 cadres qui se sont chiés dessus et qui sont sortis parce qu'ils avaient peur, tout simplement. Parce que Marquinhos qui disait « je vais serrer les dents, je vais serrer les dents », au bout de 20 minutes, tu joues et en sachant qu'on t'a piqué juste avant pour pas que tu sentes les douleurs, au bout de 20 minutes, t'es là, tu te tords de douleur jusqu'à tu sors du terrain. Il sort du terrain, littéralement, il sort du terrain, il s'arrête même pas sur la pelouse. S'asseoir, non, il sort du terrain, il s'en va, il laisse son équipe à 10. C'est le capitaine de l'équipe, quand même. Il sort de l'équipe, il sort du terrain sans rien dire. Et ensuite, ses coéquipiers lui disent « Mais re-rentre sur le terrain, montre que t'es blessé, comme ça on fait un changement ou quoi. » Et à ce moment-là, il re-rentre. Mais il était terrifié. Il était terrifié. Et le problème, il est là. Et ensuite, Christophe Galtier qui met la faute sur Batshuayi. Mais il a pas honte. Ouais, franchement, il a zéro honte. Il a zéro honte. Et franchement, je suis déçu.
Alors, que faire? Parce qu'on a le sentiment que, quels que soient les entraîneurs, quels que soient les joueurs... Le Paris Saint-Germain n'y arrive pas en Coupe d'Europe, n'y arrive pas. C'est l'environnement, c'est le présent qu'il faut changer.
Dans un premier temps, déjà, faut tout changer. Oui. Nasser Al Khelaifi, il faut qu'il s'en va.
C'est ça le problème.
Luis Campos, il faut qu'il s'en va, avec Christophe Galtier. On avait Tourelle, avec Christophe Galtier. Moi, je vous le dis en tout cas, moi, voilà, maintenant, je sais que ça ne va pas se faire, voilà, mais parce que les supporters...
Galtier va partir.
Bah, pas en fin de saison, ça m'étonnerait.
En fin de saison.
En fin de saison.
Je pense.
Vous avez des sources alors.
Je pense, ouais.
J'espère, après, en tout cas, je l'espère. Mais maintenant, c'est pour faire ramener qui après? C'est pour ramener qui juste après? La même chose.
Ouais. Là, le problème.
La même chose. Là, on avait Tourelle, on a fait demi-finale et finale de Champions League.
Et Tourelle a gagné.
On a battu le Bayern. Il est arrivé 6 mois à Chelsea, ouais. Il a pris la Ligue des Champions. Ouais. Avec des joueurs moins bons. Ouais. Avec des salaires beaucoup plus bas qu'au PSG. Le problème, il est où? Franchement, voilà, faut pas être égoïste dans la vie. Kylian Mbappé, faut qu'il parte. Voilà, il est trop bon pour ce club. Clairement, il est trop bon. Tant qu'en tout cas, ses dirigeants sont encore comme ça, ils ont encore la même mentalité, et les autres joueurs autour préfèrent profiter de l'argent, mais ne pas mouiller le maillot réellement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, et on n'a que des joueurs comme ça. Franchement, tu vas chercher dans n'importe quel club, les gens, ils jouent, ils mouillent le maillot, ils ont l'amour du maillot. Au PSG, il n'y en a aucun, à part, on va dire, des Titi et Kylian Mbappé. Voilà, sinon les autres, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Verratti, on a vu, ça fait combien de temps il est là, on dit c'est un potentiel. Il sera parmi le top du milieu de terrain. Bah, Vitinha, ça va être la même chose. On le récupère jeune, bah, il ne progressera pas. Il ne progressera pas. Parce qu'il y a, de une, il n'y a pas de concurrence. De une, même, que ce soit les défenseurs, les milieux de terrain, il n'y a pas de vraie concurrence. Ils ramènent des gens, bah, ils ramènent des Marcos Soler et après ils se plaignent. Il se plaint, Marco Soler, il était à Valence, il était très bien là-bas. Oui, il était très bien là-bas. Mais il le ramène au PSG pour ne pas le faire jouer. Oui, pour ne pas le faire jouer ou ne pas le faire jouer à son poste.
Voilà, c'est ça.
Le mec, c'est un attaquant, tu vas le mettre en défense. Non, mais sérieusement, tu t'attends à quoi? Non, mais franchement, c'est... Voilà, on pourrait passer des heures et des heures à redire tout ce qu'il y a à dire sur le PSG.
Tous les ans, c'est la même chose. Hein, tous les ans, c'est...
Je suis fatigué, moi, de ce club. Je suis fatigué de ce club. Voilà. J'ai plus de force, quoi.
Issa, vous avez suivi le match. Vous devez être déçu. Vous êtes d'accord avec cette analyse qu'on a le sentiment que le joueur est plus important que le club, ce qui n'est pas le cas des autres grands clubs européens.
Déjà, le problème du PSG, c'est qu'il n'y a pas d'âme dans cette équipe.
Voilà, c'est ça. Exactement ça.
Et puis, les joueurs sont trop payés. Il y a trop d'argent.
Mais les autres, ils sont payés pareil, plus cher. Au Real, c'est pareil.
Oui, non, c'est pareil.
Là, ils ont vraiment mis la barre très haute. Hein, tu vois, donc, c'est devenu un club de showbiz.
Donc, ça, c'est vrai.
Les joueurs font un peu ce qu'ils veulent. Ils sont caressés dans le sens du poil. Je me demande même s'ils ont envie. Ils sont tellement payés, tellement dans un confort. Tu sais, au bout d'un moment, moi, ce que je dis, je dis que, voilà, comme a dit...
Eladji,
voilà. Je pense que voilà, il faut en banlieue, on a beaucoup de potentiel, on a beaucoup de jeunes qui ont envie, et puis voilà, faut aller chercher les jeunes qui ont la dalle et pas rester bloqué sur un seul joueur. Et je pense que voilà, la banlieue parisienne est remplie de talents. Ouais. Il faut retravailler avec des jeunes qui ont faim. Et pour moi, voilà, Paris, ils ont plus faim. Ils ont pas faim. À l'heure actuelle, ils sont trop dans un confort et l'argent ne fait pas tout. Ouais. L'argent, et on le voit. Alors, on a beau mettre l'argent ne donne pas des valeurs, ne donne pas une culture, il manque un truc.
Oui, parce que le Barça, ils avaient de l'argent, et puis ils ont gagné des Coupes d'Europe. Ouais, le Real, il y a de l'argent, ils ont gagné des Coupes d'Europe. Le Bayern aussi, quoi.
Ouais, mais les gens sont contents d'aller là-bas.
Oui, c'est ça.
Là, le PSG, par exemple, Messi est venu par dépit, parce que c'était le seul club qui pouvait l'accueillir financièrement. Manchester City venait d'acheter Grealish à je sais pas combien de millions d'euros, ils pouvaient pas se permettre d'acheter Messi derrière. C'était trop gros pour la masse salariale. C'est pour ça que Messi est venu au PSG. Tout simplement. Déjà, tu regardes, tu vois, il y a des joueurs, ils viennent juste pour l'argent. Ouais, parce qu'on est les seuls à pouvoir les accueillir. C'est clairement, ils ne sont pas intéressés par le projet sportif.
C'est venu avec le marketing, tout simplement.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Voilà, c'est business, aussi c'est l'apparence. Ouais. Et après, voilà, c'est le...
C'est peut-être la philosophie aussi des Qataris, le marketing. Ouais, exactement. Avant le sport, quoi.
Exactement, mais c'est pas bon. Ouais.
Ça passe pas bon, c'est sûr. La preuve.
On voit bien l'équipe de France.
T'aimes bien le foot, toi ?
Ouais, j'aime bien le foot. Ouais. Après, je suis pas forcément, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Et je pense que c'est qu'Mbappé devrait partir.
Voilà. Ouais. Bon, ça donne pas trop rire, en tout cas, d'avoir préféré la boxe.
Moi, j'aime bien le basket aussi.
Ah oui ?
Ouais. Ouais, je kiffe le basket. J'ai fait 50 baskets.
D'accord. Bah, on en parlera aussi parce qu'il y a un bon club, Paris 13, hein. Paris Basketball. Bon, en tout cas, Paris Saint-Germain éliminé, on l'a dit. Hein, donc, il ne reste plus que le championnat. Ça va être, la fin de saison va être longue quand même. Hein.
Et ennuyante.
Ennuyante, surtout. J'ai vu le match contre Brest. Franchement, le match, il était ennuyant. Je voulais éteindre, en fait. Je regardais le match vraiment parce que je suis obligé de regarder pour pouvoir parler des trucs. Sinon, voilà, ça ne m'intéresse pas, quoi. Brest, jouer contre Brest, sérieusement.
Ouais. Alors, on va en parler tout à l'heure dans le championnat. Alors, autre résultat quand même, donc, en plus du Bayern de Dominique qualifié, eh bien, c'est le Milan AC. Hein. On s'attendait à un match très serré entre les deux équipes. Milan avait gagné le match aller 1-0. 0-0 au match retour, donc l'AC Milan qualifié. Chelsea qui est allé donc se qualifier aussi en battant Dortmund. Hein. Dortmund a gagné l'aller 2-0. Ouais. 1-0, Chelsea a gagné le match retour 2-0. Et puis Benfica, ils avaient gagné l'aller à Bruges 2-0. Et ils ont gagné 5-1, donc ce match retour.
C'est ça. Franchement, voilà. Benfica, ils ont fait le taf aller-retour. On le voyait bien déjà. Hein, voilà. Et ça se voyait hein, depuis le début de saison. Ça se voyait en phase de poule. D'habitude, le PSG cartonne un peu. Ils nous font croire. Et après, ensuite, ils redescendent dedans. Là, on a vu contre Benfica, ils n'arrivaient pas à battre Benfica. Match aller, match retour, tu veux gagner la Ligue des Champions, tu n'arrives pas à battre Benfica. Même s'il y a de très bons joueurs au Benfica, c'est du tout pas les mêmes joueurs, internationaux, etc. C'est pas pareil du tout. Franchement, on voit bien en équipe de France, des personnes comme Konaté, qui sont d'origine parisienne. C'est des gens comme ça qu'on doit aller chercher. Mais non, ils préfèrent aller chercher des Brésiliens parce qu'ils ont des noms qui finissent en Nio. Non, mais c'est réellement ça. Sinon, il y a des Konaté. Moi, Konaté, je le vois, il est excellent, Konaté. À Liverpool, Konaté ou Upamecano. Mais c'est des gens qui sortent
super
tout ça. Il l'a muselé. Mais pourquoi il l'a muselé aussi? On le voit bien dans les autres clubs. Quand le Real il joue contre une grosse équipe, ok, il y a de très bons défenseurs aussi. Ok, il n'y a pas de problème. Cristiano Ronaldo, quand tu vois, il perd 2-0 match aller contre l'Atlético de Madrid avec le Real de Madrid. Et match retour, il te claque un triplé. L'équipe, pourquoi il te claque un triplé? Les défenseurs sont toujours aussi chauds sur lui. Hein. Ça ne change pas. Mais il a de meilleurs milieux de terrain. Qui lui donnent des bons ballons. Il a eu quel ballon exploitable? De tout le match qu'il y a à Mbappé, quel ballon exploitable il a eu? Zéro. Messi lui a fait une entrepasse, mais tout le reste, il faisait que de marcher. C'était catastrophique. Catastrophique. Vous voulez aller où avec une équipe comme ça?
Donc l'intersaison va être très, très mouvementée. On aura naturellement l'occasion d'en reparler. Donc Bayern de Munich, Milan AC, Chelsea et Benfica sont les quatre premières équipes qualifiées. Et puis cette semaine, donc, on aura le retour des autres matchs. Hein, Liverpool, Real Madrid, Francfort, Naples, Inter de Milan, Porto et Leipzig contre Manchester City.
C'est des matchs. Je pense que le match le plus serré, c'est plus Porto-Inter.
Ouais.
Je pense que le piège, il est là-bas. Je pense que Porto peuvent se qualifier. Attention à l'Inter. Mmh. Voilà, attention à l'Inter. Sinon, bon, je pense que Manchester City, Nkunku, est encore blessé ou sera trop juste pour être là. Du coup, je pense que Manchester City vont se qualifier.
Oui, ils avaient fait match nul à Leipzig.
Ils avaient fait match nul à Leipzig avec un match très très moyen quand même. Attention, avec un match très très moyen. On voit en ce moment, ils sont dans le dur. Même dernier match là en championnat ce week-end, ils ont gagné 1-0 sur penalty. Voilà, attention.
Et puis, reste, bah, pour le reste, le Real, c'est pratiquement fait. Ouais, hein, on en avait parlé, puis Naples aussi. Hein.
Voilà. Ouais, le Real, c'est fait. Naples aussi, ça va être fait, match retour, quoi.
Bon, alors maintenant, il va falloir se consoler avec Nice. En Ligue Europa Conférence, la Coupe d'Europe des 5e, 6e. Hein. Nice qui a gagné donc face à Tiraspol, le Sheriff Tiraspol, 1-0.
Tiraspol.
Ouais, Tiraspol. Donc match retour à Nice. Bon, ça va le faire quand même, enfin.
On espère, attention, attention, parce que Tiraspol, match.
Attends, ouais, non mais...
Philippe, ouais. Je te vois beaucoup rigoler.
Oui.
Je te le dis, t'aurais une drôle de tête si Nice y sort.
Ah ouais, non, mais c'est sûr.
Ah, je te le dis, parce c'est que Tiraspol, il jouait juste avant contre je ne sais plus qui, et ils ont perdu 1-0 match aller à domicile. Mm-hmm. Match retour, ils se sont imposés.
Ça veut dire qu'ils iraient gagner à Nice, là.
Il faut qu'ils aillent gagner à Nice.
Ouais.
Attention. Voilà. Attention, il y a des bons joueurs là-bas, attention.
Ouais. Alors déjà que c'est pas très très brillant cette année, on en a parlé les dernières semaines, hein, du fiasco des clubs français en Ligue Europa et en Ligue des Champions. Bon, seul petit rescapé, c'est Nice, donc on espère qu'un peu, qu'ils iront le plus loin possible, un peu comme Marseille la saison dernière.
Et comme Guy le disait la semaine dernière, attention parce que les équipes portugaises sont encore en lice et gagnent des points.
Attention pour l'indice UEFA. Et gagnent des points.
Et attention pour l'indice UEFA, attention. Mmh. On va commencer à perdre. De toute façon, ça serait. Voilà, s'il y a qu'un seul club qui est qualifié pour la Ligue des Champions en France, je pense que de toute façon, c'est compréhensible avec les derniers parcours qu'on voit là. Voilà, à part le PSG qui peut faire un huitième de finale, à part ça.
On l'a vu
Marseille finit quatrième.
Ouais, on l'a vu. Puis les autres équipes, c'est pareil les années précédentes. Hein,
ils se qualifient juste pour prendre le chèque, quoi. Ouais, ensuite, ça y est.
Allez, justement, on en vient donc à ce championnat, 27e journée. Donc, on parlait effectivement de la courte et difficile victoire du PSG à Brest 2-1. Il y a eu quand même des matchs de folie. Hein, Lille-Lyon 3-3. Et puis, sinon, Marseille rejoint dans les dernières minutes par Strasbourg 2-2. Sinon, parmi les autres résultats, on a eu Auxerre-Rennes 0-0. Et puis Lens qui est allé gagner à Clermont 4-0. Et puis surtout, la défaite à domicile de Monaco devant Reims 1-0. Donc les poursuivants perdent des points par rapport au Paris Saint-Germain qui est en tête avec 66 points. Devant Marseille, deuxième 56, donc 10 points d'écart. Troisième Lens 54, quatrième Monaco 51. Et en bas du tableau, c'est toujours, à l'exception d'Angers, aussi serré. 15e Strasbourg, Brest, Auxerre avec 23 points. 18e l'AC Ajaccio, 21 points. 19e 3, 20 points. Et 20e et dernier, donc Angers, 10 points.
Dans le haut de tableau, ceux qui font la meilleure opération, c'est Lens. Qui vont s'imposer avec un record d'ailleurs, Openda qui met le triplé le plus rapide.
Qui est le meilleur.
Le triplé le plus rapide en Ligue 1. Voilà, en même pas 4 minutes.
De l'histoire de la Ligue 1.
De l'histoire de la Ligue 1. Ouais. C'est énorme. C'est eux qui font la bonne opération. Ils reviennent à 2 points de Marseille. Marseille, à 10, tu te dis, ils font un match nul. Tu te dis, c'est un bon résultat. Mais après avoir mené 2-0, tu te dis, on veut les 3 points.
Et en
1 minute et quelques, en 86 secondes exactement, ils se sont fait rattraper. En 86 secondes, un doublé de Aoulun qui a mis un doublé fantastique. Et voilà, du coup, Marseille qui prennent juste un point. Ils sont toujours deuxième, à 2 points de Lens. Mais attention, parce que Monaco n'en ont pas profité non plus. Du coup, ça fait pas plus de pression que ça. Ils ont que Lens.
Et mais comme Lens avait laissé quelques points les semaines précédentes.
Exactement.
Donc,
Le bas de tableau, pour Angers,
toujours depuis pareil. Un moment. Angers, c'est fini.
C'est fini depuis un moment. Depuis un moment c'est
mais
fini
derrière, la lutte demeure. Hein. Strasbourg, Brest,
Reims qui font la très bonne opération. Diga,
très belle
franchement.
De Reims.
Et là, le prochain match, je crois que c'est Marseille-Reims. Le prochain match, c'est Marseille-Reims. Le prochain match, c'est Reims-Marseille. Je pense que Marseille vont à Reims contre l'équipe de Digard qui sont invaincus. Et là, il ne faudra pas laisser de points, mais attention.
Et PSG contre Rennes au Parc.
Oui, dimanche après-midi. Ils ne vont pas avoir de problème à s'imposer. Voilà. Maintenant, ils vont dérouler, et surtout au Parc des Princes. Ils auront peur, ils vont arriver avec la peur de ce que les supporters vont penser et vont dire. Ils seront obligés de dérouler face à une équipe de Rennes qui sont dans le mou depuis un moment, qui n'ont pas réussi à battre Auxerre 0-0. Le coach qui s'est plaint même de ses joueurs, il a dit franchement, ils ont vraiment montré un visage méconnaissable et qu'il était vraiment déçu de ses joueurs. Quoi. Voilà, c'est vraiment, il a vraiment appuyé dessus en conférence de presse, je suis déçu de mes joueurs. Voilà.
Mais c'est vrai que la fin de saison va être longue. Hein. Quand on a 10 points d'avance en championnat, qu'on n'a plus de Coupe de France à jouer, qu'on n'a plus de Ligue des Champions, ouf. C'était le cas l'année dernière aussi, hein, déjà.
Oui, c'était le cas l'année dernière, mais l'année dernière, j'ai envie de vous dire même que c'était différent. C'était une remontada, tout le monde se disait, bon, comme d'hab, mais comment on voyait, mais comment on voyait l'ascension de Benzema, on avait un petit, on est français, on se disait, bon, Benzema, il commence à... Voilà, il y avait ça, mais aujourd'hui... Tu te fais battre par...
27e journée donc de Ligue 2, Sochaux-Bordeaux, c'était le match vedette, un partout. Saint-Étienne-Amiens, toujours un partout. Et le Paris FC, hein, qui jouera son match en retard aussi demain, a gagné à Laval 2-1. Ce soir, il y a un beau match entre Metz et Le Havre à 20h45. Le Havre toujours en tête avec 55 points. Devant Bordeaux, deuxième 47, troisième Sochaux 46, quatrième Metz 44. Le Paris FC est toujours en milieu de tableau, donc 11e avec 34 points. Et en bas de tableau, donc 17e Rodez 28 points, 18e Dijon Nîmes 26 points et 20e Niort donc 23 points. Bon, Paris FC qui va gagner à Laval, mais enfin bon.
Oui, Paris FC qui vont gagner à Laval. Et après,
bon, ils finiront au milieu de tableau de toute façon. Hein.
Oui, ils finiront au milieu de tableau, ils arriveront à se maintenir, ils ne seront pas relégués, ils n'arriveront pas à passer au-dessus.
Et puis voilà. pour la montée avec le Havre, c'est serré entre Bordeaux, ouais. Sochaux et Metz.
Metz qui joue contre le Havre aujourd'hui, qui reçoit le
match
Havre
important. Hein.
Match important pour le Havre et pour Metz aussi.
Bien sûr.
Pour les deux.
Peut-être plus pour le Metz parce que là, bon, ils ont une petite marche quand même. Hein.
Ils ont une petite marche, mais je pense que Metz. En tout cas, je pense pas que le Havre vont perdre aujourd'hui contre Metz. Je pense qu'ils gagneront au pire des cas un match nul. Mais en tout cas, ils vont continuer à conforter leur place de leader.
Allez, en national, 24e journée. Là, c'est là. J'allais dire, c'est la bonne surprise. On se contente de ce qu'on peut. Paris Atlético a tenu le leader donc en échec. Martigues à domicile 2-2. Hein, le match avait lieu donc naturellement à Paris. Donc à domicile, le Paris Atlético a fait match nul avec le leader Martigues 2-2. Victoire de Châteauroux qui a battu un des concurrent aussi à la montée, Concarneau 4-2. Le Restart a été battu par le Puy 3-2, ça c'est à domicile, donc ça c'est un point important perdu par le Restart. Et ce soir, donc il y a Versailles-Borgo à Jean-Bouin à 21h. Martigues en tête avec 41 points. Deuxième, Concarneau, Versailles 39 points. Quatrième, le Restart 38 points. On va quand même rappeler que le Restart a aussi un match en retard. Cinquième, Dunkerque 37 points. Et en bas de tableau, 15e, le Puy 26 points. 16e, Saint-Brieuc 23 points. 17e, le Paris Atlético 19 points. Et 18e, Borgo donc 18 points.
Martigues qui peuvent se retrouver 3e après 3e voire 4e même avec le Red Star parce qu'ils ont tous des journées en moins.
Ouais.
Voilà, moi c'était tout drôle, j'ai vu voilà, le stade il est juste en bas de chez moi.
Ouais. Du coup, vu le match ?
J'ai vu les deux buts.
Ouais.
J'ai vu le but de Martigues. Sur le but de Martigues par contre, il y avait une faute pour l'Atlético dans la même action, il y avait une faute pour l'Atlético qui n'a pas été sifflée et c'est sur ça que Martigues ont égalisé. Et ensuite, après, j'ai vu le penalty accordé pour truc. Le gardien avait plongé du bon côté, mais le penalty avait été bien tiré. Voilà, j'ai... Et après,
l'égalisation. Alors, comment ça se fait que cette équipe de l'Atlético, bon, qui va descendre, hein, mais comment...
Donc,
comment
ça pour se fait vous, les carottes sont cuites aujourd'hui? Quand je le disais, il y a encore 10 ans,
vous me disiez. Ça va être compliqué quand même.
Très compliqué. Mais... Ils sont à 10 points.
Ouais. Mais par contre, ils réussissent mieux devant les hauts tableaux, paradoxalement. Là, ils ont fait un nul à domicile, bon, ok, mais ils n'ont pas été battus, quoi.
Ils doivent battre les... Franchement, moi, j'ai cru qu'ils allaient gagner contre Partig. Quand j'ai regardé les partis, je me suis dit qu'ils allaient gagner, mais... Attention, l'espoir peut vite revenir. Là, même avec un match nul comme ça, mais faudra battre des concurrents directs.
Bah oui, c'est
faut ça les battre, faut c'est les battre. Prendre 3 points d'avance, 3 points d'avance, 3 points d'avance, faut les battre.
Ouais, c'est ça le problème. Ah oui. Allez, les féminines, la 16e journée, donc le Paris FC a battu Montpellier 2-0, victoire de Lyon à Fleury-Mérogis 2-1, et puis le Paris Saint-Germain qui a écrasé Reims 4-0, donc là, pas de changement, Lyon en tête avec 43 points, devant le PSG 2e 42 points, et le 3e, le Paris FC 33 points.
Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. De toute façon.
Toujours les mêmes, hein, le mano à mano entre Lyon et le Paris Saint-Germain.
Exactement, on attendra le 20 mai pour savoir qui gagnera le 20 mai. Enfin, le PSG sera obligé de gagner à domicile le 20 mai s'ils veulent repasser devant Lyon. Entre-temps, si Lyon ne font pas de faux pas et que chacun assure de son côté.
Alors justement, tiens, le foot féminin, il y a une nouvelle cette semaine, c'est que Corinne Diacre n'est plus la sélectionneuse de l'équipe de France. Ouais. On pouvait s'y attendre, hein, après la démission de Noël Le Graët. Elle avait été contestée par ses joueuses. Alors, bon, on ne va pas reparler de la manière. Hein, voilà. Ouais. En tout cas, elle n'est plus sélectionneuse de l'équipe de France.
Oui, elle n'est plus sélectionneuse. Elle voulait rester en tout cas sélectionneuse. Ouais. Elle voulait y rester jusqu'a la fin. Ils ont dû la mettre à la porte, comme on a vu que ça allait faire la une.
C'est nouveau quand même, hein.
C'est nouveau, mais je pense qu'il n'y avait pas trop de choix quand même.
Ouais.
À 3 mois d'une Coupe du Monde, voilà. Il n'y avait pas trop le choix. Avec tous les cadres qui s'en allaient, c'est quoi ? Elle va jouer sur le terrain elle-même ? Elle va être la capitaine ? Elle va jouer sur le terrain ?
Alors, c'est pas possible. On va attendre donc le choix du nouveau sélectionnaire. Ouais. Bon, maintenant, les filles, elles ont plus le droit de se planter. Hein. Bon, parce que là, elles pourront plus s'en prendre qu'elles-mêmes. Alors, c'est vrai qu'elles ont fait un quart de finale de Coupe du Monde. Elles ont fait une demi-finale de l'Euro. Il leur faut encore quand même franchir un palier. On la voit pas un peu trop belle, cette équipe de France féminine, par moment ?
Comment ça, trop belle dans
C'est-à-dire
sens
qu'elle vaut plus que ce qu'elle réellement que ce qu'elle est.
C'est possible.
Parce qu'on la voit des fois gagner la Coupe du Monde, on s'est dit elle va être championne d'Europe, elle va être championne du monde, et finalement on voit qu'il y a quand même une marge encore qu'elle a souvent du mal à.
Faut qu'il travaille, faut qu'il travaille. Et après, et moi je pense que faut qu'il travaille aussi. Il y a tout l'aspect autour aussi qui compte énormément.
Oui. Parce donc que ça peut jouer ça.
Ça joue énormément. Moi je les ai jamais vus faire une Coupe du Monde, être avec une bonne coach, avec voilà, avec tout, en tout cas tous les bons éléments quoi. Parce qu'ils ont des bons joueurs individuellement, ils sont bons. Avec leur club, ils gagnent des trophées. Mais avec la France, c'est difficile. Pardon. Du coup, il faudra trouver... là, on espère que le nouveau coach qui va arriver, moi, je pense, en tout cas, si j'avais une suggestion ou quoi, j'aurais pris Hervé Renard.
Ah oui, pourquoi
Hervé
pas.
Hervé Renard.
Pourquoi pas.
Voilà, qui a fait gagner la CAN.
Ouais, pourquoi pas. Alors, faut-il être candidat cette semaine? Ça va être, je crois, les auditions que c'est cette semaine.
Il a été candidat.
Ah, il a été candidat.
Candidat. J'ai vu qu'il a été
peut-être
candidat.
Peut-être que, bon, ça sera peut-être lui. Hein.
J'ai vu qu'il a été candidat, ouais. C'est pour ça que je dis.
D'accord.
Ah,
bah, c'est bien.
On verra bien.
Allez, on va finir avec le championnat étranger, l'Angleterre, 27e journée. Bon, Arsenal a pris un petit peu de large, 5 points d'avance maintenant. Premier avec 66 points, deuxième Manchester City 61.
Ouais, ils avaient 5 points d'avance déjà juste avant, ils ont juste réconforté
Ils vont être champions d'Angleterre.
Ils vont être champions, je pense que c'est très dur de pronostiquer ce qui va arriver parce qu'on sait bien surtout que dans le championnat anglais, le dernier peut battre le premier comme le premier peut battre le dernier, c'est très compliqué. En sachant que là, ils ont des gros matchs contre Liverpool à Anfield qui cherchent une place dans le top 4. Ils ont un match retour aussi contre Manchester City. Ils ont encore des grosses équipes à jouer, du coup, Manchester United aussi. Ils ont encore des grosses équipes à jouer. Rien n'est fait. 5 points d'avance, c'est.
Et là, ils ont le même nombre de matchs que Manchester City. Il n'y a plus de match en retard.
Ils ont le même nombre de matchs. 5 points, ça va être...
En Espagne, 25e journée, Barcelone, premier avec 65 points, deuxième, Real Madrid, 56 points. Là, l'écart s'est creusé aussi.
9 points, le Real qui n'a pas su profiter la dernière fois.
Ouais. Donc,
avec quand même, franchement, en tout cas, là, je regarde les matchs du Barça. Sur les deux derniers matchs du Barça, le Barça aurait dû faire nul. En tout cas, ils auront, l'équipe adverse aurait dû bénéficier d'un pénalty ou quoi qu'est-ce. Atlético Bilbao, bon, la main, c'est très léger. C'est à l'appréciation de l'arbitre, comme on le dit. On peut pas dire que c'est une faute manifeste, mais attention quand même. Parce que moi, je pense que sur le but d'Inaki Williams, ça serait contraire. Je pense que ça serait le Barça qui aurait eu la même action. Je pense qu'on aura accordé le but. Et le pénalty non sifflé avec Valence à la 86e minute. Voilà, ils gagnent que sur des petits 1-0. Attention, il reste 13 journées.
Ça peut 9 bizarre, points, pas de champion.
9 points, en sachant que là, ils vont bientôt jouer. Dimanche prochain, ils jouent contre le Real. Si le Real les bat, ils reviennent à 6 points. Ouais. À 6 points, c'est plus la même chose. Mmh. Attention. Et mais bon, en tout cas, avec l'affaire qui tourne en plus sur le Barcelone, avec l'affaire Negreira, pourquoi ils ont payé tant l'arbitrage, etc. On ne sait pas trop, mais là, en tout cas, avec les résultats qu'il y a... dernièrement, on se dit il y a peut-être un lien quoi.
Allez, le championnat le plus serré, champion européen, c'est le championnat allemand, 24e journée, premier Bayern de Munich 52 points, donc après sa victoire face au PSG en Ligue des Champions, et deuxième Dortmund 50 points. Donc là, rien n'est joué.
Rien n'est joué, Dortmund qui ont fait un nul contre Schalke 4, normalement Schalke 4 ils sont dans les derniers. Dortmund qui font pas la bonne opération, mais je pense que ce qui les met un peu dans le mou, c'est les blessés. Brandt qui s'est blessé dès le début déjà contre Chelsea. C'est ce qui fait même qu'ils ont été éliminés un peu, je pense, contre Chelsea. Et ils sont éliminés de la Ligue des Champions. C'est dur à digérer juste après le week-end d'après. Et là, on a vu, ils ont pas montré une très très belle, image d'eux. Et voilà, ils se sont fait rattraper 2-2 par Schalke 4.
Allez, le championnat italien, 26e journée. Bon, là, pas de problème, on le dit chaque semaine. Naples survole ce championnat. Attention à Naples, cette année même pour la Ligue des Champions.
Oui, attention.
Parce que, ils vont bien.
Ah là, ils tapent Francfort.
Ouais.
Bon, là, ils vont passer.
Mais attention.
Faudrait voir.
Ça tourne bien. Ouais.
Attention, moi, je pense juste que faut pas que Naples tombe trop tôt contre une équipe d'expérience. Par exemple, là, au prochain tour, s'ils tombent contre le Real de Madrid. Ouais.
Le Real ou le Bayern,
ça sera... Ou le Bayern, je pense que les carottes seront cuites. En tout cas, ça sera très difficile parce qu'il faut vraiment un banc en profondeur, et les autres, ils manquent vraiment d'expérience. Du coup, ça pourrait être difficile.
Alors, Naples, donc, en tête avec 68 points, devant l'Inter de Milan, 50 points, et troisième, donc, la Lazio de Rome, 49 points, qui revient quand même.
La Juventus qui revient surtout. Ouais. Attention, on dit bien c'est possible qu'on leur retire, qu'on leur remette les 15 points. Hein. Ils ont dit qu'il y a eu peut-être une erreur dans l'affaire et c'est possible qu'on leur retire les 15 points et qu'on leur remette les 15 points. Et si on leur remet les 15 points, ils sont deuxièmes, la Juventus. Ils passeront deuxième à ce moment-là. Et même malgré ça, ils sont quand même septièmes, à même pas 5 points des places européennes, des passes qualificatives pour la Ligue des Champions. Moi, je pense que la Juventus vont finir dans le top 4. Hein. Avec le visage qu'ils montrent en ce moment, ils vont finir dans le top 4.
Ce sera un beau retour quand même.
Ça sera un beau retour.
Ah ouais, ouais. Un beau pied. Et puis ils ont encore quand même mérité la Ligue Europa. Donc ils peuvent jouer.
Ils ont encore la Ligue Europa.
Ils ont encore jouer le coup en
match aller. Ils ont gagné 1-0, un petit 1-0 contre Fribourg. Mm-hmm. Là, match retour, faudra pas perdre quoi là-bas. Ouais. Mais bon, Fribourg qui sont un peu dans le mou aussi, même s'ils ont réussi à s'imposer ce week-end 2-1 assez justement. On verra bien.
Allez, on va appeler notre ami Stéphane Desenclos hein, dans quelques minutes. On va écouter la première pause musicale, Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. Hein, je peux te voir maintenant. Et puis, on se retrouve avec Stéphane dans quelques minutes pour finir avec ce chapitre foot. Et ensuite, naturellement, on parlera de boxe. Voilà, comme promis, ben on va retrouver, comme chaque semaine, pour le quotidien du sport.fr, le coup de gueule de notre ami Stéphane Desenclos. Stéphane, bonsoir.
Oui, bonsoir Philippe, bonsoir à tous, à toutes et à tous.
Voilà. Bon, je peux imaginer le coup de gueule qu'il va y avoir ce soir, Stéphane, vers qui il est adressé.
Ouais, bien sûr, c'est le gros coup de gueule, c'est bien sûr contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Pour la deuxième fois, le PSG quitte la Ligue des Champions au stade des huitièmes de finale. Je crois que c'est la cinquième fois en 12 participations sous QSI. Alors, tout ce qui est possible de dire de mal sur le PSG a été dit en 5 jours, bien sûr, mais je crois qu'on n'a pas assez insisté quand même sur le management du club. On a beaucoup tiré sur le niveau des recrues, mais pourtant, l'été dernier, on saluait tous l'arrivée de Fabián Ruiz, cadre du Napoli. On se disait que Carlos Soler, international espagnol et capitaine de Valence, serait une bonne doublure. Et on se félicitait de voir Hugo Ekitike rester en France plutôt que de rejoindre la Première Ligue. Persuadé que Christophe Galtier saurait utiliser Renato Sanchez, on se disait même que l'ancien Lillois pouvait jouer un rôle au cours de cette saison. 8 mois plus tard, ils ont tous volé en éclats, ils sont devenus nuls, ce qui n'est pas faux,
non,
mais il y a sans doute des raisons. Alors moi je dis non, le problème du Paris Saint-Germain n'est pas le recrutement, mais bien le management de l'équipe en général et des joueurs en particulier. Sur les 3 dernières saisons, on ne compte plus les joueurs arrivés à Paris avec un statut certain, mais qui n'ont jamais réussi à confirmer, broyés par un environnement professionnel peu propice au football de très haut niveau. À tel point, aujourd'hui, qu'on peut se demander, on peut se poser la question, que deviendront des Skriniar, Ziyech, Osimhen, une fois qu'ils seront au PSG, de Mauro Icardi à Hugo Ekitike, donc en passant par Julian Draxler, Jorginho Wijnaldum ou Fabián Ruiz, les tops devenus flops, c'est devenu une grande spécialité du PSG. Pour changer ça, le PSG doit mettre le foot sous la responsabilité des vrais spécialistes et ça ne sert à rien de nommer Zidane entraîneur si c'est pour lui imposer une mauvaise philosophie qui prend racine dans un management déficient et pas seulement le management de Messi et Neymar. Prenez l'exemple de Marseille par exemple, hein. Mike Court met l'argent, mais Longoria décide. Après, il peut avoir tort, il peut avoir raison, mais il décide vraiment. Ce n'est pas Mike Court qui, des États-Unis, va imposer de faire jouer Payet, par exemple, parce qu'il est plus bankable qu'un autre. On l'a vu en début de saison, quand ça râlait dans le vestiaire, Longoria a pris la parole pour dire « ceux qui ne sont pas contents peuvent partir ». En fait, le PSG, c'est une sorte de royauté perdue dans l'Europe du football, une royauté qui vit avec ses propres règles, mais qui doit les changer, ces règles, pour exister au plus haut niveau. Nommer quelqu'un comme Arsène Wenger, le club de la capitale l'a approché, c'est pour ça que j'en parle, président ou un poste de management influent, un conseiller du président, lui ou un autre, mais redonner le club au foot. Bon voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, il y a quand même des choses bien dans la semaine, comme la mise à l'écart de Corinne Diacre. Elle était attendue, mais c'est quand même mieux en le disant. De son côté, l'ex-sélectionneuse a déjà préparé sa défense devant les prud'hommes en expliquant qu'elle était victime d'une, je cite, « opération de déstabilisation ». Elle n'a pas tort sur ce point-là, effectivement. Hein, voir des joueuses faire virer leur sélectionneuse, c'est quand même peu banal et pas forcément une démarche à encourager. Mais là, en fait, on peut dire qu'il y avait... urgence, à l'image de ce culot lunaire de la sélectionneuse, mais qui n'est quand même pas très surprenant, parce qu'elle a quand même l'image de « j'ai toujours raison, c'est moi qui ai toujours raison ». Alors, je suis un petit peu amusé, pour parodier un film comique français à succès, j'ai envie de dire « Corinne, tu peux pas avoir une ennemie dans ton groupe, tu peux avoir une ennemie dans ton groupe, mais pas 15, tu peux avoir 2 ennemis dans ton groupe, mais pas 15, à la rigueur, tu peux avoir 3 ennemis dans ton groupe, mais pas 15 ». Bref, on a compris que seul le papy, le Graet, pouvait la sauver, mais plus personne ne voulait sauver papy. Et puis, Corinne, elle tombe avec. S'il y a l'UEFA qui veut sauver papy et qui a prouvé d'ailleurs son dynamisme, sa fraîcheur, son envie d'aller vers l'avant en engageant un homme de 81 ans, au passage, c'est quand même, il faut l'avouer, un joli clin d'œil à ceux qui vont dans la rue en ce moment pour ne pas vouloir arrêter de travailler 2 ans de plus et donc s'arrêter à 62 ans. Pour finir, le grand kiff du week-end, je suis désolé les amis, mais ce n'est pas du foot, c'est du rugby. Ce samedi, j'ai pensé très fort à mon papa, ancien membre de l'équipe de France universitaire de rugby, qui est décédé en septembre dernier. Grand fan de rugby, il était forcément anti-anglais. Et j'espère, je suis sûr même que de là-haut, il a pu assister à ce crunch historique avec plaisir. Quelle raclée on leur a mis.
Ouais, ça fait du bien Stéphane, d'autant plus quand les Anglais, on leur a mis donc une belle raclée sur le rugby, puis on les avait éliminés, on s'en rappelle, quelques mois plus tôt au Mondial de foot. Hein.
Voilà, exactement, ça n'empêche pas. Certains, on l'a vu, c'est peut-être une réponse à certains chroniqueurs qui ont massacré le Paris Saint-Germain après la défaite face au Bayern. C'est le karma.
Elodie, tu veux réagir?
Oui, Stéphane, je voulais réagir au niveau de... parce que vous avez dit, tu avais dit qu'il y avait des joueurs qui étaient arrivés, ils étaient très bons et ils sont arrivés, maintenant ils sont nuls.
Ouais, mais ça, j'ai pas dit très bon, mais en tout cas, ils sont nuls. Je dis, c'est un peu une image, c'est un peu ironique par rapport à ce qui est dit dans la presse. Hein.
Oui, mais voilà, qui était bon parce que Fabien Ruiz, moi clairement, je ne savais même pas c'était qui avant qu'il arrive.
Ouais.
Voilà, avant qu'il signe, je savais même pas Fabien Ruiz c'était qui. Vitinha, encore moins. Renato Sanchez, je l'ai vu avec Lille, mais sans plus. Sans plus. Où est-ce qu'il a joué? Il avait jamais joué de match de... Il avait jamais joué de Ligue des Champions, Renato Sanchez. Non, mais dites-moi même un bon match qu'il a fait contre une bonne équipe. À quel moment?
Non, mais elle a dit, t'as pas complètement tort, sauf que tu manques aussi un petit peu de culture foot. Tu m'avais chambré, je me rappelle, pour montrer mon ami à juste titre, hein, pour Moussiala, allemand à la Coupe du Monde.
Mais je te parle de Moussiala. Sanchez,
il a joué. Non, mais Renato Sanchez, il a joué au Bayern Munich, il a été la révélation de l'Euro 2016 avec le Portugal. Il a porté quasiment Lille vers le titre de champion. Comme je le dis, on se disait qu'il pouvait faire quelque chose. Mais je n'ai pas dit que c'était des cracks.
Non, il était au Bayern de Munich. Ruiz, il a fini Fabien maintenant Ruiz. Où? Il était à Lille. Pourquoi il était à Lille maintenant? Comment tu vas quitter Bayern pour arriver à Lille?
Ouais.
Mais il faut prouver comment alors, avec ce parcours-là, comment, à quel moment, et même quand il était au Bayern, c'est quel match qu'il a fait en Ligue des Champions? Il chauffait le banc. Derrière celui qui chauffait le banc.
Non, je crois pas que c'était ça, mais bon, mais bref, ce que je dis.
Non, mais je te le dis parce que tu m'as dit, je manque de culture footballistique. Je t'ai parlé de Moussiala. Attends, t'es journaliste, Stéphane, t'es obligé de connaître Jamal Moussiala aujourd'hui parce qu'il fait partie des cracks au monde. Aujourd'hui, maintenant. Mais il y a six mois, c'était compliqué. Mais
non,
c'est ça que je dis.
Il y a avant la Coupe du Monde, non, je connais.
Bah, avant la Coupe du Monde, Jamal Moussiala était déjà sur les lèvres de pratiquement
Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, mais de toute façon, on ne va pas se battre là-dessus. Là, c'est un international espagnol. C'est un joueur qui était très bon au Napoli, contre qui on a joué avec le Paris Saint-Germain et qui jouait à Naples quand on a joué avec le Paris Saint-Germain. C'était un bon joueur, intéressant. Et il n'y a pas que moi. Quand il a signé, regarde, va faire des recherches Google et tout. Tout le monde, bon, nous, même beaucoup à tort, le prenait pour Thiago Motta, le nouveau Thiago Motta. Et ce qui n'était pas du tout le cas, ça on le savait, parce que ce n'est pas le même style de joueur. Mais tout le monde était content de voir un joueur arriver comme ça. Moi, Mauro Icardi, par exemple, j'étais ravi de le voir arriver, cartonner à l'Inter de Milan. D'ailleurs, il a cartonné, il a été assez intéressant pendant un an au Paris Saint-Germain.
Et maintenant, il est à Galatasaray.
Et maintenant, il est redevenu à Galatasaray.
Ouais.
Wijnaldum, quand on voit, je ne suis pas en train de dire c'est les super méga joueurs. Moi, je me pose la question aujourd'hui, je peux te la poser aussi. Quel joueur pourrait venir au PSG où tu vas dire ce mec-là, c'est sûr et certain, il va être bon?
Je vais t'en citer, et je vais même pas t'en citer un, je vais t'en citer au moins trois. Moussa Diaby, Nkunku, Konaté, Upamecano, et je peux continuer. Hein. Je peux continuer. Ouais, hein. Et ça, c'est des titis parisiens. Hein. Ça, c'est des gens qui jouent pour l'amour du PSG. Ils viennent pas que pour l'argent.
Moi, je vais te dire l'année dernière, par exemple, j'étais fou. Je voulais vraiment que le Paris Saint-Germain prenne Sadio Mané. Il y a des joueurs comme ça que je veux avoir. Mais aujourd'hui, je suis même pas sûr que tu prends un Sadio Mané, ou bon, ceux que tu dis, ils ont le niveau certainement, en tout cas plus que ou au moins autant que ne pouvaient l'avoir à l'époque les Ruiz ou les Sanchez, ça c'est clair, je suis là tout à fait d'accord avec toi, mais moi je suis désolé, aujourd'hui c'est ce que j'essaye d'exprimer à travers cette chronique, il n'y a rien qui ne me dit que dans 6 mois, ça ne sera pas devenu, excuse-moi du mot, des grosses M, bip, bip, bip.
Des grosses merdes, moi je vais te le dire, des grosses merdes, et moi je vais te le dire aussi, pourquoi moi je pense que ça ne deviendra pas des grosses merdes, parce qu'on le voit dans d'autres clubs, pourquoi ça marche, parce qu'ils viennent pour l'amour du maillot. Messi est venu au PSG par dépit, parce qu'on était le seul club qui pouvait l'accueillir et lui donner le salaire qu'il voulait. On était le seul. Ouais, du coup, c'est pour ça qu'il est venu. Non, mais faut savoir. Attends, excuse-moi Stéphane. Idrissa Gueye, il est parti. Idrissa Gueye n'est pas plus fort que Renato Sanchez et Fabien Ruiz et compagnie?
Moins fort, tu veux dire? Moins fort à leur prime et pas blessé? Non, pas du tout, non.
Comment?
Non, pas du tout.
D'accord, mais en tout cas, au PSG, Idrissa Gueye, il est à Everton, Idrissa Gueye. Mais Idrissa Gueye, on sait bien qu'Idrissa Gueye...
Il joue le titre en Angleterre.
Non, mais attends, on sait bien qu'Idrissa Gueye, le titre en Angleterre, c'est pas pareil du tout, parce que tu peux prendre le dernier d'Angleterre, il va taper le deuxième de France. Voilà, du coup, ça n'a rien à voir. La Première Ligue, c'est le meilleur championnat au monde. Ça n'a rien à voir avec l'équipe de France qui est classée 5e, qui va passer 6e derrière le Portugal. Ça n'a strictement rien à voir. Idrissa Gueye, on sait bien qu'il a quitté le PSG, pas pour pour des raisons sportives, parce qu'on l'a vu contre Manchester City, le seul qui portait ses couilles, c'était Idrissa Gueye et Angel Di Maria, les deux que vous avez laissé partir. Et quand je dis vous avez laissé partir, je parle des dirigeants.
Je vais te dire une chose. Que vous avez, je ne suis pas dirigeant.
Je parle, oui, c'est ce que je dis.
En tant qu'observateur, si c'est à refaire, je le refais. Hein.
Oui, mais c'est bien ce que je dis. Mais c'est pas sportif. Voilà, faut le dire aussi. Ça n'est pas sportif. Non, absolument pas. Ça n'est pas sportif. C'est le seul qui a montré qu'il était à la hauteur quand on jouait contre Manchester City et qui ne se pissait pas dessus, pardon, à chaque match de Ligue des Champions.
J'aimais plutôt bien ce joueur, mais regarde Di Maria, par exemple. Mais des 10 mains, j'aurais été fou qu'on fasse re-signer Di Maria. Maintenant, effectivement, là, il fait une saison correcte avec la Juventus. Je suis d'accord avec toi, il fait une saison correcte avec la Juventus.
Mais même au PSG, dans les grands matchs, il a toujours été là. Mais Angel Di Maria, il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. La finale, si l'Argentine, il gagne, c'est grâce à Angel Di Maria. Sans Angel Di Maria, il ne gagne pas.
Je ne veux pas du tout dénigrer, dans le sens que même en plus, ça, c'est de l'eau à mon moulin. C'est-à-dire que Di Maria, c'est quand même à la base, quasiment lui, parce qu'il ne faut pas non plus se voiler la face, c'est quasiment lui qui voulait partir.
Il voulait partir. Il y a encore des articles qui sont sortis, Stéphane, que j'ai lu là. Si tu te renseignes, tu vas voir que les dirigeants du PSG ne voulaient même pas accepter les appels d'Angel Di Maria pour une prolongation. Ils ne voulaient même pas accepter.
Moi, je me suis renseigné, c'est mon
métier. Et ils voulaient le garder. Ils voulaient le garder. Franchement, ils l'auront gardé. Le PSG ne voulait pas le garder. Ils arrivent à garder Kylian Mbappé qui exprime clairement qu'il a envie d'aller au Real de Madrid et tu me dis qu'ils vont pas réussir à garder Angel Di Maria. Faut arrêter
lui
cette blague,
pas,
faut arrêter cette mascarade, Stéphane.
Elle a dit, lui ne pense pas que tu sais tout, c'est aussi mon métier. Lui ne voulait pas rester au Paris Saint-Germain dans ces conditions-là. Il ne voulait pas être la quatrième roue du carrosse derrière.
Il a raison. Derrière des joueurs qui mouillent pas le maillot, derrière des joueurs qui sont nuls à chier au PSG comme Lionel Messi et comme plein d'autres.
Si tu veux, tu apportes de l'eau à mon moulin. Tu dis que c'est le management qui ne fonctionne pas au Paris Saint-Germain, à tel point peut-être si tu as envie qu'un mec comme Angel Di Maria il a envie de se barrer du Paris Saint-Germain, parce qu'il en a peut-être marre aussi, comme tu viens de le dire avec tes mots à toi, que de toute façon la préférence soit toujours faite à Messi, Neymar et Mbappé, et que lui soit la quatrième roue du carrosse. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, que selon mes informations, Angel Di Maria ne voulait pas re-signer. Maintenant, ce qui est dit ou par les gens et tout, tu vas trouver 5 journalistes qui vont te dire comme moi, 5 qui vont peut-être te dire le contraire, mais en tout cas, au bout du compte, il voulait du temps de jeu. Il a du temps de jeu et c'est la preuve exacte qu'un mec comme ça, peut-être avec du temps de jeu, plus que celui qu'il avait l'année dernière, est capable d'apporter au Paris Saint-Germain. Donc, on dit en fait tous les deux la même chose. Le management, c'est pas une question de joueur, c'est une question de management. Mais moi, que Messi il re-signe au Paris Saint-Germain, si tu le fais jouer une demi-heure, si on accepte, ça ne fait pas un scandale pendant une semaine dans les journaux, que les médias sont aussi coupables de ça. Rappelle-toi, quand Pochettino l'avait sorti contre Lyon, ça en a fait un scandale et lui, il va se faire virer, puis on ne fait pas ça à Messi. Regardez sur telle photo, on voit qu'il ne lui serre pas la main, et ceci et cela. Mais c'est scandaleux de voir des choses comme ça. Et à force d'écrire des choses comme ça ou de dire des choses comme ça, on est tous... Nous, en tout cas, moi, je me mets dans les médias et les journalistes, on est responsable aussi de ce qui arrive. Et c'est à force de ça, et c'est ça qui doit changer. Quand Payet, il est dans le vestiaire en début de saison, qu'on s'aperçoit qu'il va se passer ce qui se passe en ce moment à Marseille, c'est-à-dire je ne suis pas pro-Tudor, pro-Marseille, absolument pas. Simplement, Longoria, il dit, s'il n'est pas content, quoi, ceux qui ne sont pas contents, ils prennent la porte. J'ai choisi Tudor, c'est lui le coach. Quand le mec il se fait siffler au premier match contre Reims au Vélodrome, il dit ça haut et fort. Et c'est ça qui change. C'est ça qui change. T'as un mec qui connaît le foot, c'est pas dirigé de Doha. Alors Al-Khelaifi, je pense qu'on peut pas lui en vouloir beaucoup. Je pense qu'il est exactement comme les gens de Doha, non pas qu'il a peur et qu'il fait ce qu'on leur demande de faire, que lui il est d'accord avec eux, il est exactement pareil qu'eux, attiré par les mêmes choses qu'eux, et qu'il faut un vrai patron du football. Prends Zidane, on l'a vu avec Tourelle, on l'a vu avec Ancelotti, il y a toujours des trucs qui déconnent, qui vont pas quand tu prends des coachs comme ça, et prends surtout un président qui soit, alors je parle de Wenger. Il a dit qu'il ne voulait pas aller au Paris Saint-Germain, Wenger. Mais peut-être, comme conseiller, pourquoi pas, il peut venir. Un mec qui soit écouté comme ça, prend Zidane demain. Alors Zidane, peut-être, avec l'aura qu'il a, ça peut changer, mais ça ne sera pas forcément grâce à ses qualités.
Je suis sûr qu'actuellement, en tout cas, tu peux prendre Zidane, Carlo Ancelotti, et tu les mets à côté avec Tourelle, ça ne changera rien.
Ouais. Très bien.
Et bah, c'est exactement ce que je dis dans le truc. En fait, on est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord, tous les deux, là-dessus.
Très bien. Eh bien, merci. C'était voilà, ce gros coup d'œil. Et puis, rendez-vous donc la semaine prochaine. Et puis, rubrique qu'on retrouve tout de suite, d'ailleurs, sur le quotidien du sport.
Ouais.
Merci, Stéphane. Voilà. Allez, on va parler boxe, hein, maintenant. C'est ça, cette émission. Alors, donc, je l'ai dit, qu'est-ce qu'il vous reste à faire donc, pour les quelques jours qui précèdent, sur le plan mental, sur le plan physique?
Alors, ces derniers jours-là, c'est plus de, on va dire, relaxation.
Oui.
Pour ne pas stresser le muscle,
oui.
Pas avoir de courbatures. Parce que là, on a... La semaine dernière, on a poussé, on a bien poussé. Là, c'est vraiment repos. Et voilà, histoire de...
Quelques footings très légers.
Voilà, quelques footings, on répète les games.
Mm-hmm. Et alors, voilà. Faut bien dormir aussi.
Ah, bien important. Dormir, bien ouais. Dormir.
Ça va, on arrive bien à trouver s'hydrater. Le sommeil. On arrive à trouver le sommeil.
Ouais, bah ouais. Bah,
hein, y a pas un peu d'appréhension?
Non, pas d'appréhension.
Bon, son adversaire, on y pense, on en rêve.
Comment?
De l'adversaire.
Non.
Est-ce que vous connaissez bien?
Non, on se connaît pas du tout.
Pas du tout.
Non, il vit en Argentine.
Ouais, d'accord. Ouais. Bon, et puis, alors, le papa, donc vous êtes l'entraîneur, qu'est-ce que vous dites à Bakary quelques jours avant? Parce qu'il faut, un certain feeling quand même.
Qu'est-ce que je dis? Bah, après...
Ouais, pour aborder le combat, vous parlez boxe régulièrement, vous lui en parlez, il ne veut pas en parler
Non, après on a l'expérience, c'est-à-dire ouais. L'expérience, il a plusieurs combats, il a quand même 10 combats
oui,
pro.
Oui, oui.
Donc, voilà, c'est
ouais, pas... mais là, il fait un championnat du monde. Hein.
Oui,
là,
voilà.
Là, c'est la grosse ceinture quand même. Hein.
Là, c'est la grosse...
On va rappeler en super welter quand même. Hein.
Non, c'est la grosse ceinture, mais après, voilà, après... Avoir un peu la pression à vouloir bien faire, c'est humain.
Oui.
Donc après, voilà, après faut gérer ses émotions. Après, moi, je lui dis faut gérer les émotions et arriver le jour du combat dans les meilleures des conditions.
Il y a aussi le poids qu'il va falloir faire. On va rappeler un peu la catégorie des super welter.
Super welter, c'est moins de 69 kilos.
Ouais, 69 c'est, kilos. Ouais.
Non, c'est 69 kilos 850, d'accord, si je ne me trompe pas.
Donc là, c'est bon, Bakary, il est dans les poids.
Ouais, je me suis pris un mois à l'avance. Hein. J'ai fait ça à l'avance.
Ouais.
Et là, je suis au poids.
Donc, il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on
boit. Ce qu'on boit.
Ça doit être dur quand même.
Ah, c'est mental.
Ouais.
C'est mental.
Ouais, c'est mental, c'est ça. Hein.
Le poids, c'est un deuxième combat.
Bah oui, ouais. C'est un deuxième combat.
Il y a le premier combat en boxe, il y a le premier combat contre l'adversaire. Après, il y a le deuxième combat à gérer les émotions. Parce émotions, c'est humain.
Non, parce que.
Et après, le troisième combat, c'est le poids, c'est le cutting. Vous savez, dans les catégories, ceux qui boxent en super welter, en général, ils font 80 kilos de base. Donc voilà, ils ont 20 kilos à perdre, voilà, c'est ça, c'est le cutting, c'est perdre des kilos, faut pas être feignant, faut être motivé, faut s'y prendre à l'avance, il y en a s'y prendre à la dernière minute. Voilà, le poids c'est la hantise des sportifs, des combattants, parce que faut les combattants, que ce soit dans le judo, que ce soit dans la boxe, que ce soit dans tous les sports de combat, ils boxent dans des catégories. Et dans des catégories, donc voilà, c'est le poids, c'est la hantise d'un sportif. Voilà.
Ouais,
pas manger trop de sauce, pas manger de sucré, pas manger de.
Et puis vous, faut pas le tenter à la maison.
Non, mais après après vous êtes conditionné. Tu sais, on mange, c'est une question d'habitude, mais après quand vous conditionnez et quand vous avez des objectifs et vous savez là où vous voulez aller. Après voilà, vous faites attention, c'est ça, c'est le plus important, c'est de savoir ce que tu veux, pourquoi tu le fais.
Alors, on va rappeler qu'il est invaincu. Combien de combats?
Là, il a 10 combats.
10 combats. Invaincu.
Invaincu.
Tous au point ou avant la limite?
Non, 10 combats, 6 KO.
6 KO quand même. Ah ouais. Ouais. Alors, c'est venu comment la boxe?
La boxe, moi, j'ai commencé parce que mon père, c'était un boxeur avant. Mm-hmm. Il revenait de la salle avec les gants et moi, j'ai voulu m'y mettre aussi.
Ouais.
Du coup, ça s'est fait comme ça. Ouais. J'avais 8 ans.
Tout naturellement. Ça a été le premier sport. Il n'y a pas eu le basket, il n'y a pas eu le foot.
J'ai fait un peu de foot avant. Ouais. J'ai fait un peu de foot. Mm-hmm. Ça n'a pas trop duré. Mm-hmm. J'ai aussi fait du hockey sur glace.
Ah bon?
Ouais, j'ai fait de la natation, un an de natation.
Tout ça sur Gagny?
Ouais,
c'est votre ville, c'est votre ville où vous vivez, hein, Gagny, depuis très longtemps. Hein.
Ouais.
Ouais. Alors, est-ce que c'est facile, Issa, d'être le papa et l'entraîneur en même temps?
Non, c'est pas facile. Que, voilà. Ouais. C'est pas facile parce que voilà, on a deux casquettes, mais ouais. Après, il faut savoir faire la part des choses. C'est pas tout le monde qui arrive. Nous savons, on y arrive. C'est pas tous les jours facile. Ça, je vous mentirais, mais voilà. Après on s'adapte et voilà. Maintenant, on commence à se connaître. Donc, au fil des combats, donc on sait comment ça se passe, mais on essaie de. On essaie de faire la part des choses.
Ouais. C'est-à-dire qu'à la maison, on sait quand il faut parler boxe. On sait
en général, on ne parle pas trop de boxe à la maison. Bah oui. Surtout après les entraînements. Oui, alors on essaie de ne pas trop parler de boxe. Et, voilà, et puis, si on doit parler de boxe, et voilà, c'est pour... mais ça nous arrive de regarder des gros combats importants. Quand il y a des combats importants,
on va parler de Yoka tout à l'heure. On parlera du combat perdu par Yoka. Ouais. Mais voilà. Et alors, parce que les reproches que fait papa à la maison, sur la séance d'entraînement, ça se passe comment? Tu en tiens compte ou tu dis, attends, laisse-moi tranquille?
Non, j'en tiens compte. Après, on fait juste du milieu.
Ouais.
Il force pas trop sur le sujet. Mm-hmm. Quand il voit que je suis un peu, on va dire, dans ma bulle, il va pas trop forcer. Il faut faire juste du milieu, quoi. Mm-hmm. Voilà, faire la part des choses.
Alors, on parlait du sommeil, la récupération est importante. C'est combien d'heures de sommeil? 7 heures, 8 heures?
Ouais, 8 heures, je dirais. 8 heures.
Il faut une bonne nuit.
Bonne nuit.
Ouais.
Après, faire des petites siestes aussi, dans les temps de repos.
Ouais, ça aussi.
Par exemple, moi, quand je m'entraîne le matin, l'après-midi, je mange, je fais quoi? Une, deux heures de sieste. Après, je repars à l'entraînement le soir.
Ouais, parce que, bon, quand on prépare un combat, bon, là, on est à quelques jours.
Non, après, ouais, c'est vraiment quand on prépare un combat.
Alors,
vraiment.
Ça se passe comment? On se lève le matin, on va à la salle tout de suite?
On voit la salle, ça dépend de ton programme. Si j'ai physique, je fais physique le matin avec mon préparateur.
Ouais.
Je fais une heure de physique. Après, je rentre, je mange, je dors un peu. Le soir, boxe, technique. Et voilà. Après, des fois, tu cours le matin. Voilà, t'alternes.
Ouais. Et c'est papa qui planifie l'entraînement.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais.
Ça.
Ouais. Alors, c'est vrai que bon, il va y avoir à peser aussi.
Voilà, peser, là, je pense qu'à ça, moi. Je pense qu'à ça.
Hein. C'est quand la pesée? Samedi matin?
Vendredi, non, vendredi. C'est un jour avant.
Ouais, c'est un jour avant.
C'est la première fois que vous voyez à ce moment-là.
Ah ouais?
Ouais, carrément.
Ça compte la première fois quand tu vois le combattant, tu vois, tu sens l'aura qui dégage, là, toi aussi t'arrives. C'est le premier combat.
C'est le premier, celui qui domine.
C'est peut-être là qu'il gagne au combat d'ailleurs. Hein.
C'est peut-être là qu'il gagne. Parce qu'on voit bien, il y en a, il rentre après.
C'est
mental. Après, il y en a, on voit, ils rentrent sur le terrain, ils tiennent pas parce qu'ils ont peur.
C'est ça.
Ça joue beaucoup.
C'est ça.
Ouais. Ouais. Et ça dure combien la pesée là?
La pesée?
Ouais.
C'est pas longtemps.
Donc ça veut dire que le contact avec l'autre boxeur, c'est pas très long quoi.
C'est pas très long, après comme c'est vraiment préparé, c'est un championnat on va dire. Il y aura d'autres boxeurs, conférence de presse je pense aussi.
À conférence de presse?
Ouais, je pense.
Mais c'est un combat, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
C'est un combat en 10 rounds, hein, c'est ça? En 10 rounds de combien? 3 minutes?
3 minutes, c'est ça.
3 minutes, ouais. Donc,
un combat de 10 rounds.
Ouais, en 3 minutes. C'est parce qu'on va rappeler, hein, quand même, Issa, qu'il est junior. C'est un championnat du monde junior.
C'est un championnat junior. C'est un championnat du monde des moins de 25 ans.
Ouais, d'accord. Voilà. Donc, s'il est champion du monde, bon, après, il passe comment ça se passe? Chez les seniors, pros, va se passer comment?
Non, là, il rentre dans les classements. Bah, IBF, c'est une ceinture, on va dire, en boxe anglaise, il y a quatre fédérations, majeures. On a la WBC, on a la WBA, on a la WBO,
l'IBF,
on a l'IBF. L'IBF qui est une grosse ceinture reconnue. Donc, il y a quatre grosses fédérations. Donc, il y a quatre grosses ceintures. Et là, s'il remporte le titre, il rentre dans le classement. Dans le classement IBF, et puis voilà, c'est un prospect, voilà, c'est le prospect à suivre.
Mm-hmm.
Voilà.
Alors, c'est toute une ville, j'allais dire presque tout un peuple qui va être derrière vous. Hein. Oui. Ce combat, c'est à Gagny. Donc, on va rappeler d'abord que elle peut accueillir combien de personnes, cette salle ?
3000 personnes, à peu
près. 3000 personnes. Ouais. Ça y est, c'est complet ?
Ça y est, ça commence à être complet. Ouais. On a vendu pas mal de billets. Il en reste encore, mais je pense que le jour J, on fera salle complète.
Ah ouais, ouais. Bah ouais. Ouais. On peut. Comment on les achète si on veut y aller?
Bah on les achète sur un lien. Voilà, ouais. Qu'on appelle ça, c'est
billetterie.
Une billetterie, mais comment on appelle le lien? C'est
bref. On va avoir
billetterie Gagny, ouais. Voilà, combat de boxe, voilà. Ouais. Vous tomberez dessus, voilà. Donc c'est un lien, voilà. Et puis voilà. Et puis après, il y aura les billets sur place, s'il en reste encore, bien entendu.
Ouais.
Et puis
il en reste encore. Toute une ville, donc tous les copains d'enfants, ils vont aller t'encourager. Ouais. Là, quand ils te voient dans la rue, ils t'en parlent déjà.
Ouais, ouais, voilà. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, dès qu'on me voit, on me dit ouais, force, on sera là.
Bah ouais.
Ça me fait plaisir.
Bah, bien sûr, bien sûr. Alors, il faut dire quand même qu'il y a un itinéraire qui est complètement atypique. D'abord, on va en parler, mais pour organiser ce combat de boxe, ça n'a pas dû être facile à gagner. Hein. D'ailleurs, une réunion de boxe, ça coûte cher.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Comment vous avez trouvé le financement?
Avec les partenaires, avec les gens qui nous soutiennent.
Ouais. On peut en parler parce que...
Voilà, bien sûr. Donc, vous savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Oui.
D'accord, sans argent, on ne fait rien. Donc, c'est vrai que c'est une ceinture mondiale, c'est un coût. Et donc on a réussi à le financer grâce à des soutiens, à des commerçants de la ville, de Gagny, voilà, des gens qui ont des sociétés, voilà, qui nous soutiennent.
Et tous sont joués.
Tous ils ont joué.
Quand vous avez frappé aux portes, mais
non, pas tous. Après,
il y a pas eu de refus en disant non, écoutez, nous, ça ne nous intéresse pas.
Oui, après il y en a. Si vous savez, on est dans une période où c'est très dur financièrement pour les sociétés, donc c'est compliqué. Ouais. Mais ça va, on est bien entouré. Et puis surtout, le plus important, c'est que voilà, notre projet, les gens nous soutiennent parce que voilà, comme on dit, c'est une belle histoire. Et voilà, ils savent comment on travaille. Et ils savent qu'on mérite d'être soutenus. Et ils savent que s'ils nous soutiennent, on pourra faire de belles choses. Donc ils sont derrière nous et ils n'hésitent pas à mettre les moyens. Voilà, pour qu'on puisse réaliser nos objectifs.
Oui, parce que bon, vous avez toujours habité Gagny, donc imaginez un championnat du monde
Beau,
dans votre ville.
Exactement, c'est beau, c'est beau. La mairie nous donne les moyens aussi de pouvoir le faire. Donc,
oui, parce qu'il fallait quand même trouver la salle aussi, c'est pas évident.
La salle, le problème, c'est qu'à Gagny, on a quand même le plus grand complexe sportif de Seine-Saint-Denis.
Ah, ça, faut le dire.
Donc, ça, faut le dire. Donc, c'est l'Aréna de Gagny qui a fait aussi
des événements. Ah,
il y a un aréna. Ça s'appelle l'Aréna de Gagny, c'est le plus grand complexe sportif de Seine-Saint-Denis. Donc, voilà, donc on a de la chance d'avoir ça. Et puis, d'avoir un maire aussi
qui a joué le jeu. Quoi.
Qui joue le jeu, qui nous soutient et voilà, qui a tout mis à notre disposition pour qu'on puisse réaliser dans des bonnes conditions ce championnat du monde.
Et on met combien de temps à organiser comme ça un championnat? Il monte 6 mois, 8 mois,
Non, faut s'organiser depuis quelques mois. Donc voilà, il faut contacter les fédérations et savoir si on est légitime pour pouvoir disputer cette ceinture-là. Et ils vous disent oui, non, après voilà. Donc après, en fonction de ce qu'il y a, après, il faut trouver l'adversaire aussi qui lui soit légitime avec un palmarès positif. Mm-hmm. Et voilà, s'ils vous disent oui, c'est parti. Donc,
et l'adversaire, on connaît son palmarès aussi.
C'est un prospect, c'est un Argentin, un très bon boxeur, avec un style complètement différent de Bakary. Donc il a, je crois, 17 combats, un peu plus de combats. Mais bon, après, la quantité ne fait pas la qualité, mais c'est un très bon boxeur. Il a 11 KO, c'est un très très bon boxeur. Deux défaites, c'est un très beau combat. C'est deux styles complètement différents.
Il connaît la défaite déjà, c'est déjà...
Moi,
je préfère avoir moins de combats et ne pas connaître la défaite que de connaître la défaite.
Exactement.
Il connaît la défaite, ce qui va la regoûter.
Ouais. Ça pèse pas, ça, sur les épaules, quand même, parce que quelque part... faire un championnat du monde chez soi, toujours invaincu?
Non, pas forcément. Ouais. Je me suis bien préparé, je me suis très très bien préparé, c'est même ma plus grosse prépa. Du coup, mentalement, ça va. Mmh. Et j'ai déjà boxé, quand j'étais petit en amateur, j'ai déjà boxé dans des salles remplies, comme le cercle d'hiver.
Ah ouais?
Ouais, quand j'étais petit. Le cercle d'hiver, il y avait beaucoup de monde. Et... En vrai, je suis habitué. Mmh. Et voilà, pas de pression.
De toute façon, t'es concentré. Dès que t'arrives, t'es concentré.
Tu sais ce que t'as à faire. Je rentre dans ma bulle.
Ouais, mais la pression peut être forte.
Là, la pression peut être forte.
J'ai l'équipe aussi qui me met dans mon atmosphère.
Ouais. Alors justement, c'est combien de personnes dans l'équipe?
Il y a mon préparateur, il y a mon coach, il y a mon père.
Ouais.
En gros, on est quoi, sont les cinq, le caméraman et c'est tout. Cinq.
Alors, moi, tu fais que ça, Bakary? Tu fais que la boxe ou tu fais des études en
boxe? Voilà, je vis de la boxe. Ouais, je vis de la boxe.
Ouais. Ça doit pas être facile quand même.
Bah, vas-y, mais quand t'as un objectif, franchement, tu calcules pas ça. Tu fonces.
Oui, bien sûr.
Mais ouais, c'est difficile, mais on s'accroche.
Ouais. Issa, on peut vivre de la boxe à son niveau de Bakary, au niveau de Bakary, déjà jeune, ou est-ce que bon, il faut fatalement avoir des aides ou avoir des partenaires?
Bah, vivre de la boxe, il faut avoir des aides pour vivre, du sport. Ouais, ouais. Donc automatiquement, c'est ce qui manque en France, mais Bakary, ça va, il est soutenu et puis il a des partenaires qui l'aident, donc ce qui lui permet d'être concentré sur ses entraînements. Mais c'est vrai que en France, on n'a pas encore cette culture du sport. Parce qu'un sportif, il a besoin de se concentrer. Un sportif qui a des objectifs a besoin de se concentrer essentiellement sur ses entraînements. Et pour ça, il faut. Le sport n'est pas mis. C'est vrai qu'en France, il y a une grosse culture foot, mais après, les autres sports sont un peu négligés. Ouais. Et il manque un peu de visibilité. Et pour que les sponsors jouent le jeu, bah, faut qu'il y ait de la visibilité. Pourquoi ils vont sponsoriser un gamin s'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de visibilité sur leur marque? Voilà, il faut qu'aussi ils voient leur intérêt. Et c'est ce qui nous manque. C'est ce qui manque. Ce qu'ils ont dans les pays anglophones, c'est beaucoup de sponsors. Parce que le sport est mis à l'honneur. Même les petits amateurs, ils passent à la télé, ils passent dans les journaux, etc. Ouais. etc. Donc les sociétés jouent le jeu. Voilà, donc en France aussi, on a un pays où quand même. Paris, la France est quand même un pays où les plus grandes fortunés. Il y a énormément de sociétés. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas cette culture. Et le sport n'est pas mis en avant. Ça commence à venir petit à petit, mais voilà. Donc quand nos athlètes seront soutenus justement par des sponsors, je pense qu'on pourra rivaliser avec les plus grands. Les plus grandes nations.
C'est l'éternel problème parce que on parlait du foot, mais le foot on en vit bien, mais après le restant ailleurs, c'est un petit peu plus compliqué. La boxe garde une bonne image parce que ça a été un sport très populaire dans les années 70, 80. Aujourd'hui, justement, vous parliez des quatre fédérations, ça a un petit peu terni un peu l'image de ce sport, les points de repère ont été un petit peu perdus. Est-ce qu'encore, c'est un sport qui fait rêver encore? En plus, c'est un sport dur et difficile.
C'est un sport dur et difficile, mais c'est quand même la boxe reste la boxe. Ouais. La boxe, à travers la boxe, c'est quand même une histoire.
Oui, oui.
Il y a une histoire. Même en France, vous regardez Edith Piaf, Marcel Cerdan, etc. La France sans la boxe, la France est associée à la boxe. Il y a une grosse histoire, Carpentier, etc. Et j'en passe.
Boutier, Ménétré,
que ce soit même dans les pays, même Mohamed Ali, vous voyez, etc. Donc, on associe l'histoire de l'humanité avec la boxe. La boxe reste dans la boxe, ça pourra jamais mourir parce que la boxe c'est un sport où il y a, comment dire, on appelle ça le noble art. C'est un sport noble et il y a une culture, une vraie culture, des valeurs et il y a des grosses histoires qui rejoignent ce sport là. Donc la boxe, personne, même si les autres sports de combat, il y a des sports comme le MMA qui arrivent et tout en force, mais ça pourra jamais rivaliser avec la boxe anglaise. La boxe anglaise, ça reste un sport olympique, ça reste un sport où il y a énormément de champions, où il y a énormément, à travers le sport, des gens qui ont inculqué des valeurs et des principes. Quand on voyait Mohamed Ali qui dit qu'il refusait d'aller au Vietnam, à la guerre du Vietnam, voilà, des gens qui avaient l'amour du drapeau, qui avaient l'amour, voilà. Donc la boxe anglaise, pour moi, voilà, est un sport, et on ne peut pas rivaliser avec même si c'est un sport dur, mais c'est un sport qui a un élément de valeur, qui a une histoire, une culture.
Par contre, c'est un peu plus dur aujourd'hui, au niveau des médias, on en voit beaucoup moins qu'avant. La boxe, on se rappelle des soirées TF1, France Télévisions, même Canal+.
Oui, mais après, c'est dû à justement tous ces imposteurs, on va dire.
Toute la prolifération.
Les promoteurs véreux qui sont arrivés et qui pensaient qu'à leur poche, plutôt que faire évoluer le sport, on en arrive là. Donc on leur donne les moyens à ces promoteurs, mais ces promoteurs, les moyens qu'on leur donne, ils préfèrent les garder plutôt qu'investir dans ces disciplines. Donc ça fait qu'ils font des combats déséquilibrés, ils font des soirées qui ne sont pas terribles. Donc les médias, les médias et les gens ne s'intéressent plus trop à ce sport à cause de ça. Donc c'est dû à tous ces gens qui entourent ce sport et qui ramènent des mauvaises ondes, qui font les choses.
On parlera de votre itinéraire et de votre parcours tout à l'heure, mais justement, vous parliez de ces combats télé et certains organisateurs un peu véreux. Yoka a été battu ce week-end. Il a été battu au point par Carlos Takam, 42 ans. Est-ce qu'on n'a pas surcoté quand même Yoka, deuxième défaite hein, consécutive?
Non, surcoté non, mais après, vous savez,
Carlos Takam, je
le connais très bien, ouais. Carlos, parce que nous, on vient de Noisy-le-Grand, donc nous vient de Noisy-le-Grand. Moi, j'ai commencé la boxe à Noisy-le-Grand, donc Joseph Germain, qui était dans le coin de Carlos Takam, je connais, c'était mon entraîneur à moi. Donc Harry a commencé la boxe à Noisy-le-Grand, donc Carlos Takam, on s'entraînait avec lui, on connaissait Jean-Marc Mommet qui est passé là-bas. Donc, Noisy-le-Grand, c'est quand même un club qui a eu beaucoup de champions. Après, je pense que voilà, Yoka, le problème, c'est que voilà, il est. Je pense que le pauvre, il n'a pas su gérer toute cette pression. Et je pense qu'il aurait dû boxer un petit peu en dehors des caméras. On l'a trop mis. Je pense qu'aussi, c'est un petit peu la faute aussi aux médias qui l'ont un petit peu, surcoté. Tu vois, ils ont dû un petit peu le laisser monter sous des sous-cartes, aux États-Unis, à travers les regards. Le problème, c'est que voilà, c'est qu'on ne s'en rend pas compte la pression qu'ils ont, ces mômes-là, en boxant. Voilà, et le problème, c'est que voilà, des fois, il faut. Voilà, il n'a pas su gérer. Lui aussi, et je pense qu'il a fait aussi des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, personne n'est parfait. Je pense qu'il n'est pas très bien entouré. Il a fait aussi des erreurs qui l'ont coûté cher. Et aujourd'hui, il est en train de récolter ce qu'il a semé. Et même s'il si, essaye de rebondir, mais c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué. Deux défaites maintenant.
C'est compliqué. Vous savez, la boxe, faut être à fond dedans.
Il faut être à fond dedans. Dès que tu as une défaite, ça commence déjà à entacher un peu. Une défaite,
mais
encore
non,
tu
mais,
peux...
Non, mais la défaite.
Ça dépend.
Non, ça dépend. La défaite, il ne faut pas avoir peur de la défaite. Ouais. Tu sais, il faut pas. Les gens, maintenant, ils veulent. Non, il faut des défaites, victoires. Des fois, tu apprends plus dans les défaites. Mais c'est comment tu perds.
Ouais, c'est ça. Comment tu perds,
quand tu sais que t'as un moyen de le faire, quand on te donne les moyens de faire certaines choses, on donne parce que voilà, il est quand même à Canal+ lui donne les moyens, une certaine visibilité, il a tout ce qu'il faut, et que t'arrives pas à t'en servir, c'est là que c'est compliqué, tu vois. Donc après, c'est comment tu perds. Il y a des défaites qui sont constructives, de défaites ou qui sont un peu humiliantes, et dire voilà, putain, t'aurais dû, ça c'est quelqu'un que t'aurais dû passer, tu vois, avec voilà. Donc c'est ça le problème, c'est il y a défaites et défaites.
Ouais, il y a défaites et défaites, voilà. C'est exactement ça. Ouais. Moi, je pense que dans les défaites, on apprend plus que dans certaines victoires, en tout cas. Mais quand il y a ce genre de match comme ça, les matchs, vous les regardez ensemble?
Ouais, c'est ce que je voulais demander. Est-ce que tu as regardé le match?
On a regardé le combat, on a regardé. Ouais. Vraiment, quand il y a des gros combats ou... Ouais. Sinon, on regarde pas des...
Ouais, non, les vieux combats, personne ne regarde les vieux combats, même si vous êtes...
Et pourtant, dedans, c'est mythique, hein. Regardez, c'est pas mythique, hein. Ouais, c'est l'histoire de la boxe.
Mais,
hein,
mais ouais, mais les gros combats, en gros, comment, quand vous les regardez, vous commentez en même temps, tu lui donnes des conseils, excuse-moi, voilà, tu lui donnes un peu des conseils aussi, un peu, comment ça se passe?
Oh, on se donne nos idées, nos pronostics aussi, de temps en temps, et voilà. Ouais.
C'est... Bon, je pense pour la défaite de Tony Yoka, vous avez vu juste.
Non, après moi je voyais pas perdant. Moi je sais pas comment ils s'entraînaient. Non, mais ça, la vérité, pour le du coup, je me suis dit, bon, Carlos, voilà, il arrive à la fin. Mais le problème de Carlos, même s'il a 42 ans, mais c'est quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie. Donc Carlos, je le connais, moi, personnellement. Donc je suis quelqu'un qui s'entraîne tout le temps. Il boit pas, il fume pas, il fait pas la fête. Voilà, il a une bonne hygiène de vie. Et voilà, il s'entraîne tout le temps. Lui, pour lui, le sport, c'est il a c'est besoin de s'entraîner tous les jours. Donc il est tout le temps en forme, en vérité. Voilà. Donc je savais qu'il allait sur ça, je savais. Après Tony Yoka, je me suis dit, j'ai pas vu sa préparation. Donc je me suis dit, peut-être qu'il va revenir un peu plus solide, ou ils vont le préparer bien. Et puis je pense qu'il sera conditionné pour rencontrer Takam, parce que Takam, c'est quand même un bon boxeur, un bon combattant, mais quand même, il a quand même on lit un peu sa boxe. Donc voilà. Donc le problème, c'est que. Donc j'ai pas donné réellement de pronostic. J'ai dit, bon, que le meilleur gagne, tu vois, que le meilleur gagne, mais voilà, il a perdu. Il a perdu, Takam était au-dessus physiquement, techniquement. Après, moi je trouve ce qui est triste, c'est que voilà, ce qui est triste, c'est que il commence à s'éloigner de ses rêves petit à petit. Voilà. C'est ça qui est un peu triste. Je me dis voilà, et puis c'est pour ça qu'il faut pas se perdre. Dans la vie, il faut pas se perdre, il faut rester concentré. Et ces jeunes-là, malheureusement, ils sont pas bien entourés. Et voilà, l'entourage, ça compte. L'entourage, c'est ce qui tire vers le bas.
Voilà. Allez, on va écouter Ace of the Tiger, hein, Survivant, hein, c'est une musique de boxe, et ensuite on va parler un petit peu de votre parcours atypique et votre itinéraire, donc très particulier. Allez, la pause musicale. Alors cette émission, on la reverra naturellement, on la réécoutera en podcast hein, très rapidement, et puis on la reverra aussi sur votre chaîne, c'est ça,
Ouais. Chaîne YouTube.
Oui.
On vient de la créer, c'est ma chaîne YouTube et voilà.
D'accord, ok. On revoit tous vos combats, tout ça.
On va essayer de reposter un maximum de choses.
D'accord. Alors, le concurrent qui sera opposé, c'est Lucas Batista, c'est ça ?
Exactement.
Qui vous sera opposé. Alors, il y a aussi un moment important, c'est quand on sort de, quand on va sur le ring, quand on sort de la salle, quand on va sur le ring, ça c'est quand même...
Bah, c'est...
Ça aussi, hein. C'est comme la pesée, hein.
Ah, c'est un gros moment, c'est... Ouais. Là, tu dis, enfin,
ouais.
Enfin, et là, vraiment, t'es dans ta bulle.
Ouais.
Moi, j'entends plus rien. Moi,
ah
j'entends
bon, même pas les supporters, même pas les spectateurs. Non,
là, là, tu rentres.
C'est fou. Hein. Ouais.
Et après, dès qu'il y a la cloche qui sonne, voilà, t'es, pff, ouais. Enfin. Wow. Après, tout le stress, tout part.
Ouais. Et c'est là que le papa a des mots importants. Vous parlez beaucoup dans ces cas-là où on laisse, où on dit rien.
On essaie de dire les mots.
Ouais, c'est ça. Il faut trouver les bons mots. Hein.
Faut trouver les mots. Ah voilà, ouais, on dit ça, en général. Voilà, on laisse, puis on dit les mots qu'il faut. Après, ouais. Ça sert à rien d'en dire trop. Après, voilà, bon. il a déjà les directives. Et puis voilà.
Absolument.
Il essaie de faire du mieux. Et puis, faut pas. Ça sert de trop parler.
Oui, trop parler. C'est là le fait d'être.
La quantité n'est pas la qualité. On essaie de dire les mots justes. Voilà, si on voit. La garde elle est un peu trop basse, bah relève tes mains, voilà. Et on dit voilà, on a des mots, mais on essaie de pas trop de dire non plus ça.
Hein. Ouais. Et vous dormez bien aussi le papa?
Ouais, bah écoute, ça va, tranquille. Hein. Ah. Ça va. Ouais.
Bon. Ça, quand même, quand il y a des combats comme ça, ouais. Qu'est-ce que vous ressentez?
Ah bah ouais.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez quand votre fils rentre dans le ring pour se battre?
C'est une fierté. Après, ouais, c'est un accomplissement. Ça fait longtemps qu'il s'entraîne. Mmh. Voilà, on arrive à... C'est une étape, c'est étape par étape. Et voilà, on avance bien. Et on se dit, voilà, on a fait du chemin. Et puis voilà, après, je ne me fais pas plus de soucis que ça parce qu'il est bien entraîné.
Mmh.
Et avant de rencontrer n'importe quel adversaire, on étudie l'adversaire. Donc pour moi, voilà, il est capable de le battre. Voilà. Et il est capable de battre cet adversaire, il a toutes les armes pour le faire, il est bien entraîné, donc vu comment il est entraîné, je suis serein.
Ah oui.
Ouais, pour moi, physiquement, il est prêt, techniquement, il est prêt, et puis voilà. Donc, il n'y a pas de souci.
Et puis, on ne pense pas à la défaite, et s'il y a défaite, il n'y aura pas
non,
de
problème. Non, on ne pense pas à la défaite. Ouais. On est là pour gagner, ça va bien se passer, il va reprendre
absolument.
Cette ceinture.
Voilà, il va la ramener, et puis voilà, on aura de belles photos dans le studio la semaine prochaine.
Alors, on a des comptes à régler avec les Argentins.
Oui, en plus, je ne pensais pas.
Beaucoup.
Oui, je ne pensais pas en plus.
On a beaucoup de comptes à régler avec les Argentins.
Alors, il y a eu aussi un parcours atypique, vous pouvez en parler un peu.
Un parcours atypique, c'est-à-dire
C'est-à-dire hors fédéral.
Ah oui, il est parti.
Ah bah oui, c'est quand même...
Il est passé pro à 17 ans, une chose qu'on ne peut pas faire en France.
Ah oui.
Donc, il est passé pro, on était obligé de s'exiler à l'étranger pour pouvoir le faire parce que voilà, on peut pas le faire et puis voilà donc atypique c'est ça c'est et puis
ça veut dire que ces combats étaient pas reconnus ces victoires comment où ils pouvaient pas combattre comment ça
non
se
il
passait.
Était mineur donc mineur tu peux pas boxer en France donc on est obligé de s'exiler pour qu'il puisse disputer ses premiers combats professionnels
D'accord et donc il a été en Belgique
il a été au Luxembourg voilà licencié luxembourgeois et il a fait son premier combat au Luxembourg après on a enchaîné en Belgique et etc jusqu'à sa majorité après il a fait son premier combat à 18 ans, à Drancy, pas loin de la maison, chez lui.
D'accord.
Et premier combat, ça s'est fini en TKO ?
Non, on avait pris un Italien très solide. Donc, très solide pour qu'il. Le but, c'est qu'il fasse des rounds, qu'il apprenne le métier. Donc, on n'est pas dans la facilité, on est dans le travail. Donc, il a rencontré un bel adversaire, rude, solide. Il a fait 6 rounds face à lui, il a fait un très beau combat. Mmh. Il s'est bien débrouillé.
Ouais.
C'est ce qui l'a fait grandir. Ouais.
Et comment ça se passe, justement, comment ça se décide de rencontrer tel ou tel boxeur
Après, en fonction de. Au début, voilà, quand on cherche des combats, le plus important, c'est de voir sa progression.
Oui.
Donc, on ne va pas prendre des combats trop faciles, ça ne sert à rien.
Ouais,
c'est pour qu'un mec, tu y viens, tu lui fous deux coups de poing et tombe par terre.
On
te lève la main, ça ne sert à rien. Parce qu'après, la réalité des choses, elle te rattrape.
Ouais.
Le plus important, c'est de trouver le juste milieu, c'est ça le matchmaking. Et d'être manager, c'est de trouver des combats qui te font grandir. Ni trop fort, ni trop faible.
Ouais.
Voilà, c'est un métier aussi, manager, machin.
Donc,
voilà.
donc vous téléphonez à l'autre manager.
On téléphone, on a des gens qui travaillent à l'international, qui travaillent avec tous les pays. Donc voilà, on nous propose des combattants. Lui, c'est bien, lui, c'est pas bien. Lui, c'est le moment, lui, c'est pas le moment. Voilà, c'est comme ça. C'est voilà, prendre des bons adversaires qui te font grandir. Voilà. Mm-hmm. Qui te font grandir, qui te font évoluer. Parce que, là, comme je vous dis, la boxe, c'est un sport très dur. Il ne faut pas avoir une fausse confiance, il faut avoir une vraie confiance. Et voilà, il ne faut pas brûler aussi non plus les étapes. Voilà, ouais. Chaque chose en son temps. Et puis voilà.
Alors, on gagne un peu d'argent dans un combat.
Oui, bah, il gagne, il est professionnel.
Par exemple, s'il est champion du monde.
Il gagne. Bah oui, il gagne. Ouais, c'est son métier et voilà, il gagne. Voilà.
Mm-hmm. Ouais, bon, et puis, vous parliez de la boxe. C'est pratiquement un des sports le plus dur, peut-être le plus dur sur le plan préparation physique et le plus complet quand même.
Le plus complet parce qu'il y a la préparation physique, ouais. il y a le physique, il y a c'est le mental.
Tout travail hein, dans le.
Il y a le physique, il y a le mental, il y a la technique, ouais. Voilà, c'est un sport très dur. C'est très très, très dur. Voilà. Et, c'est un sport que vous prenez des coups. Donc mm-hmm. L'intégrité physique aussi joue. Donc c'est un sport très 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 dur. Mais voilà, comme je dis, après, la vie est un combat. Donc pour moi, la boxe, c'est l'école de la vie. Parce que la vie aussi fait mal aussi. Vous savez, dans la vie, on a toujours des choses qui nous arrivent et qui nous met KO. Mmh. La boxe, la même chose. Voilà, faut se battre, faut avancer. Et voilà. Et c'est une bonne école de la vie. Voilà.
C'est un sport qui plaît bien aux jeunes. Est-ce qu'il y a eu des médailles olympiques en 2016? Est-ce que ça a attiré beaucoup de jeunes?
Oui, les salles en France sont remplies. Ouais. Les salles en France sont remplies. Mais après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Faut, comme je vous expliquais, après, c'est une histoire de moyens. Il faut donner les moyens à cette jeunesse de pouvoir réussir. Et comme je dis, après, c'est bien pour ce qui se passe avec Canal+, avec Tony Yoka, mais je pense qu'il y a, pas, il y a plein de jeunes qui aussi, il faut donner l'opportunité à des jeunes de pouvoir réussir. Voilà, ne restez pas que sur une seule personne. Voilà, c'est ça qui est triste en France, c'est qu'ils mettent le paquet sur un seul boxeur alors que il y a des viviers de champions dans les quartiers. Et donc voilà, il faut mettre la lumière, il faut aider les jeunes. Il faut aider, voilà, il faut. Moi, je pense que voilà, la boxe, voilà, c'est pas assez, c'est trop dans le showbiz. En France, on est trop dans le showbiz et regarde, on en paye les frais. Voilà. Je pense que.
Mais il y a aussi le problème d'organiser des combats, c'est compliqué aussi, c'est difficile, ça coûte cher.
Oui, ça coûte cher, mais comme je vous dis, après les combats, non, après à certains niveaux, ça coûte cher, mais voilà, après, comme je vous dis, après, on a toujours des aides, on peut trouver, vous savez, tant que votre combat est noble, il y a toujours des gens qui vont vous aider, tu vois. Donc après, non, après, vous pouvez toujours vous en sortir. Mais comme je vous ai dit, après, voilà, il faut tous les promoteurs qu'il y a en France, il faut, voilà, il n'y a pas qu'un seul boxeur, il n'y a pas que deux boxeurs. Il y a aussi plein de jeunes, les salles de boxe sont pleines. Les jeunes ont besoin d'être soutenus, les jeunes ont besoin de boxer, ils ont besoin de vivre aussi de leur passion. Et voilà, donc je trouve ça dommage pour ce point.
Oui. Alors, j'ai eu aussi le prix des places. Là, je suis allé sur le prix de la mairie. Mmh. 25 euros, je crois.
25 euros, ouais, c'est raisonnable. Voilà. Oui. C'est pas 80 euros, c'est pas 100 euros. Voilà, c'est accessible. 25 euros, voilà. Donc, tout le monde peut assister à cet événement. Voilà, c'est, pour un championnat du monde, je pense que voilà, les places, elles sont très raisonnables.
Donc, on va rappeler l'horaire. Il y a trois combats avant donc, le combat du championnat du monde.
Donc, ouais. L'horaire, c'est 19h, ouverture des portes, avec des petits combats qu'on va mettre, des petits boxeurs amateurs, voilà. Deux, trois boxeurs amateurs qu'on va mettre en valeur, parce que c'est normal. Mmh. Et voilà, le temps que les gens y rentrent. Après, 20h, début de la soirée, voilà, ouais. avec des shows, de la danse, voilà, du...
Ouais.
Voilà, et puis après,
comme aux US,
le petit show, voilà, et puis ouais. Et puis voilà, après que la fête commence, et après trois beaux combats professionnels, et voilà.
Bon, ben, on va souhaiter bonne chance, on va croiser les doigts, et puis voilà, on va finir avec, tiens, on va parler basket, ça va te plaire, t'aimes bien le basket, c'est notre ami Valentin, donc, qui vient d'arriver, il va rester avec nous. Bonsoir Valentin.
Salut Philippe, ça va?
Ouais, ça va.
Ça va, hein, toi?
Alors, tu sais que t'es un passionné de basket, là, donc tu vas peut-être nous parler un petit peu du Paris Basket, hein, puisque le championnat donc, est reparti ce week-end,
plus belle, ouais.
23e journée, le Paris Basket, donc... qui a été battu à Strasbourg assez largement, 96-76. Dans le même temps, donc, victoire de Boulogne-Levallois, 93-87 devant Nancy. Et puis Nanterre a gagné aussi contre Villeurbanne, 82-61. Et puis Monaco qui poursuit son cavalier seul.
Saison, ouais,
Monaco vainqueur 85-74 à Rouen. Donc Monaco en tête à 82,6 devant Boulogne-Levallois à 73,9. Le Paris Basket est 12e avec 39,1 et 16e Nanterre et Nancy. Nanterre, attention, c'est la dégringolade, qui va jouer d'ailleurs, je crois, vendredi à Paris, hein, qui vient rencontrer c'est donc ça. Le Paris Basket, 34,8 et 18e Blois, 30,4.
Ouais, Nanterre, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Après, la semaine dernière, ils avaient, on avait parlé de leur dernière défaite. Et j'avais espéré pour eux que ce ne soit pas une série de mauvaises défaites. Et là, ils ont réussi à remonter la pente. Et c'est vrai que ça c'est. Là, c'était une belle victoire de Nanterre. Mais bon, c'est vrai que ça commence à être vraiment. La fin est compliquée. Et pour Paris, une défaite, on va dire, logique. Pourtant, au début de match, ils étaient dedans. Ils avaient l'énergie qu'il fallait. Et en fin de match, c'est tout le temps les derniers. À chaque fois, on le dit, les derniers quarts, les 9 dernières minutes, les 8 dernières minutes, le Paris Basket a tout le temps du mal à. Je sais pas, il y a les plans de jeu, on sent que l'équipe se comprend plus, il y a un problème, les pick and roll étaient mal exécutés, les trois points c'était, on peut le dire, dégueulasse, c'était compliqué, franchement compliqué. Bon après, Strasbourg est devant, et puis bon, Monaco est tout simplement injouable cette saison.
T'aimes bien le basket, tu en as du mal.
Ouais, moi j'ai beaucoup fait de basket quand j'étais petit.
Ouais.
Street basket, tout ça, je kiffe vraiment.
Ouais.
Et d'ailleurs, mon préparateur, c'est le préparateur physique du Paris Basket.
Ah d'accord.
Yoann.
Voilà, comme quoi, vous voyez.
Comme quoi, le monde est petit.
Et Valentin est un fidèle des matchs du Paris Basket.
J'adore Carpentier, on espère que la fin de ces dernières années à Carpentier.
Ils ont un peu de retard dans les travaux.
Un peu de retard, donc on espère que ça sera encore un peu long, parce que l'ambiance est quand même exceptionnelle. Il faudrait garder cette ambiance et les ultras sont pour qu'on garde la salle, donc on verra bien ce qu'ils vont décider à la fin de la saison. Ouais.
Très bien. Alors, avant de parler de volley, je voulais simplement dire que Ali Azad, qui était venu, le champion handisport, qui était venu il y a 15 jours, eh bien, il est champion de France handisport de cross-country.
Ah, génial, il doit revenir avec la médaille, comme il avait promis.
Donc, voilà, c'est ça. Champion donc de France handisport cross-country qui s'est déroulé donc ce week-end en Bretagne. Okay. Donc, il nous a envoyé cette info. Donc, félicitations à lui. Le volley, 24e journée. Donc, Paris nettement battu, 3-0 par Nantes 13e. À domicile, et puis Cambrai battu par le Plessis Robinson 3-2, Plessis Robinson qui remonte donc Tours est en tête avec 55 points, deuxième Nantes 13 et 53 points, le Plessis Robinson est donc 12e avec 23 points, et le 14e c'est Cambrai 9 points, et Paris est au milieu.
Voilà, au milieu Paris Basket, au milieu de tout ça, et bon, pour faire rapide, on va pas... Ouais. C'est encore une défaite pour le Paris Volley. La saison était plus que compliquée, vivement que ça s'arrête. Le Paris Basket a su remonter, eux, donc ils sont assurés. Paris Volley aussi, mais c'est trop peu pour les clubs parisiens. Je trouve qu'on devrait exiger plus d'eux-mêmes. Après, la défaite face à Nantes, elle est normale. Nantes est deuxième. Nantes-Saint-Nazaire, c'est une très très bonne terre de volley. Et c'est beaucoup. C'était trop du haut niveau, donc on espère que...
Ton cœur était partagé, c'est ça?
Mon cœur était partagé, je vais pas te mentir que non, je suis un peu content qu'ils ont gagné, mais Paris, c'est dommage, parce qu'on sent qu'il y a du potentiel dans cette équipe, il y a des vétérans, il y a des jeunes, il y a du monde, il y a un bon staff, mais c'était encore trop jeune, justement, pour espérer être un peu plus haut dans le classement.
Très bien, on va finir avec le rugby, le ballon ovale, parce que un des événements de la semaine, ça a été naturellement donc l'élimination du PSG en Ligue des Champions, mais ça a été aussi la victoire, Stéphane en parlait dans son coup de gueule, du 15 de France, dans le tournoi Destination, 4e journée, humiliation de cette équipe de France qui a humilié l'Angleterre 53 à 10 à Twickenham, victoire aussi du Pays de Galles en Italie 29 à 17, et de l'Irlande qui a bien montré qu'elle était la meilleure équipe de ce tournoi, match équilibré en première mi-temps, puis l'Irlande qui prend le dessus carrément physiquement en deuxième, victoire 22 à 7. Donc l'Irlande est en tête avec 19 points, devant la France deuxième 15 points, troisième Écosse-Angleterre 10 points, cinquième Pays de Galles 5 points, et dernière donc l'Italie avec 1 point.
C'est ça. Ça va jouer sur les derniers instants, comme on les aime avec les tournois à destination. L'Irlande, si on aurait pensé il y a encore 2-3 ans que l'Irlande aurait pu être la meilleure nation dans un tournoi à destination, on n'aurait pas espéré. L'Italie qui progresse, on voit la progression, mais c'est comme le Paris Volley, c'est encore trop jeune pour espérer performer. Et l'équipe de France, oui, personne n'aurait cru c'est historique, tout simplement, c'est une humiliation, sorry good game comme tout le monde dit.
Les a battus au rugby puis au foot.
C'est ça, voilà, c'est une année très compliquée pour les Anglais, après la blessure de Mathieu Jalibert, personne n'aurait espéré une aussi grosse victoire. À la fin, on a même reposé nos cadres, donc c'est ça il ne reste qu'une journée, donc on verra bien comment ça va se profiler, mais ça sent bon quand même.
Logiquement, bon. Là il y a eu 3 victoires à l'extérieur, ça devrait être 3 victoires à domicile, hein, la dernière journée, ça sera Écosse-Italie, France-Galles et Irlande-Angleterre.
Attention, c'est vrai Galles, ils aiment bien nous mettre dans la difficulté, ils sont un petit peu sur le déclin, mais c'est le meilleur moment pour essayer de performer, hein. C'est souvent que tu es face au mur que tu veux montrer que tu n'es pas encore mort, donc peut-être qu'ils vont essayer ça.
Et si l'Irlande gagne, ce sera le 4e grand chelem de leur histoire, c'est alors ça tombera bien parce qu'en plus c'est la Sainte-Patrick. C'est la fête irlandaise, donc ils vont pouvoir fêter ça correctement. Vous avez vu le rugby?
Non,
ça, c'est pas un sport qui vous plaît. Ouais, bah ça tombe très bien. On va donc vous laisser. Hein. Vous allez prendre la photo avec nous.
D'accord.
Hein, c'était prévu, vous voyez, pile. Okay. Hein. Okay. Merci en tout cas. Bonne chance à toi.
Merci beaucoup.
Hein, et puis c'est promis juré, tu ramènes la main.
Promis, si tu le veux, on va faire ça bien.
Voilà, bah oui, on va faire ça bien.
On espère te revoir après avec la ceinture quand
même. Ouais, c'est ça, mais il vient lundi prochain.
Ouais.
Avec la ceinture.
Franchement, on sera là pour t'accueillir.
Merci en tout cas pour votre participation. Merci Valentin. Rendez-vous la semaine prochaine. On finit avec Simon Garfunkel, le boxeur, The Boxer. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous. Salut. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, let him scare. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie, asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. La 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 la. And a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, la, lie, lie, la, lie, 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 lie. Lie, la, 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 la,
Paris FM.